R22 tout le monde
présent
relecture
en réécoute
antenne le musée commun.
Bonjour à tous, bienvenue au musée commun à Saint-Blaise pour cette rencontre alors qui se passe dans le cadre du festival Relecture qui est organisé par Kiasma et cette rencontre qui s'appelle Documenter la performance et performer le document, qui est une discussion que je vais avoir avec Guillaume Desanges cet après-midi. Je vais en dire un peu plus juste après. Je vous dis juste deux mots à propos du musée commun. Donc c'est un lieu ici que je dirige. Il y a trois personnes qui travaillent. Donc il y a Antonia Carrara et Sarah Papon qui sont ici avec moi. Un projet qui est un projet un peu expérimental. On peut dire innovant, parce qu'en général, maintenant, lorsqu'on dit expérimental, innovant, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent pour très longtemps. C'est un peu le synonyme. Quand vous avez un projet innovant, c'est qu'il y a peu d'argent. Et quand il est expérimental, c'est qu'il y a peu d'argent pour pas très longtemps. Donc ça, c'est, on est vraiment en plein dans l'innovant et à fond dans l'expérimental, dans le cas du musée commun. Il se trouve que c'est un projet qui s'inscrit dans la commande publique qui a accompagné l'aménagement de la ligne T3B. Donc il y a un ensemble d'œuvres qui ont été installées le long du tramway. Et parmi les projets qui ont été pensés et proposés par Christian Bernard, qui était le commissaire de ce parcours de sculpture, il y avait une idée comme ça assez ouverte de musée commun. Qui n'était pas extrêmement détaillé, à vrai dire, pour être tout à fait sincère, mais l'idée qu'il y a un espace, en tout cas, dans la maison des pratiques artistiques amateurs, ici, dans ce quartier Saint-Blaise, qui serait occupé pendant une durée d'un à deux ans, il va faire un an et demi en réalité, et qui serait occupé autour de... qui ne serait pas une œuvre en tant que telle, ou alors une espèce de méta-œuvre, puisque c'est un espace dans lequel on invite des artistes à travailler... avec des habitants ou dans le quartier autour de projets qui impliquent des pratiques du commun, comme le nom l'indique. Et dans le cadre de ce projet, moi j'ai choisi aussi qu'il y ait un ensemble d'autres modalités de rencontres. Il y a des projections du documentaire, des projections pour les enfants aussi, un programme de rencontres, dont cette rencontre-là qui est à la fois inscrite dans le cadre du festival Relecture, mais aussi dans un projet du musée commun qui s'appelle La Réserve, qui a débuté il y a peu de temps et qui est derrière nous. Et La Réserve a pour fonction en fait d'accumuler sous la forme de donations en fait d'artistes, d'institutions ou d'acteurs culturels des documents qui ont ça de particulier, qui sont aussi les traces principales, parfois uniques, d'œuvres qui se sont déroulées. Donc c'est déjà l'idée de La Réserve, c'est de construire une forme de bibliothèque de projets qui existent essentiellement sous forme de documents. Et qui sont finalement assez raccords avec ce dont on va parler aujourd'hui, en tout cas certains aspects de la discussion qu'on va avoir avec Guillaume, qui sont effectivement cette relation entre les pratiques performatives et le document, et un aller-retour, comme le titre de la rencontre l'indique, entre justement le geste de documenter de la performance, un geste on va dire même plutôt historique, et puis un geste peut-être plus contemporain, qu'on a appelé aujourd'hui performer le document, et on va... à travers un ensemble aussi d'exemples et d'échanges, parler un peu de tout ça. L'idée aussi, pour aujourd'hui, c'était aussi essayer d'aborder les choses de manière... en tenant compte du fait que... et c'est aussi pour ça qu'on, sur ce terrain-là, qu'on s'est rencontré avec Guillaume, c'est aussi parler de pratiques curatoriales particulières qu'on pourrait, comment dire, justement, mettre sous l'égide de cette performativité du document. Moi, aujourd'hui, je parlerai en tant qu'effectivement directeur de Kiasma, commissaire indépendant, mais aussi en tant que performeur, et je ferai un espèce d'aller-retour, en tout cas, entre ces pratiques, puisque c'est aussi un terrain sur lequel on s'est rencontrés. Guillaume était, la semaine passée, dans le cadre du festival Relecture, qui donc durait deux semaines, il clôturait la première semaine avec aussi une performance, donc là dans un rôle aussi dont on pourra discuter du rapport qu'il a avec tes autres pratiques curatoriales. Voilà. On s'était dit aussi qu'on allait peut-être prendre pour point de départ un peu un texte que tu as écrit pour la revue S, qui est publiée au Canada, et qui prenait un peu trois artistes un peu en référence. Peut-être commencer par... Et c'est là que tu articulais, en tout cas, dans cette introduction de texte, ce mouvement entre documenter la performance et performer le document. avec cette question du théâtre dont on a, sur laquelle on n'est pas forcément d'accord et donc sur laquelle c'est aussi intéressant. Ça pourrait être un point de départ pour discuter avec vous de ces questions-là.
Oui, en fait, donc ça marche là, oui. Ce texte, donc c'est une commande de la revue S et c'est une commande ouverte et donc j'étais invité à écrire sur ce qui m'intéressait aujourd'hui. Et il se trouve que ces dernières années, en tant que commissaire d'exposition, m'a beaucoup intéressé les relations, à la fois de manière totalement parallèle, à la fois les relations de l'art contemporain à la connaissance et au savoir, qui était le sujet assez vaste que j'ai tenté d'aborder dans une série d'expositions au plateau entre 2009 et 2011, qui s'appelait Érudition concrète. Et puis, donc la question de savoir comment les artistes transformaient la connaissance et le savoir dans une forme de, je dirais presque déjà une première rupture avec l'art conceptuel, au sens où il traitait non pas forcément des grandes questions de la métaphysique, mais d'un savoir qui était déjà le savoir en lui-même, institutionnalisé à travers des livres, des films, enfin presque plus entre la culture et le savoir, on va dire. Tout en essayant d'éclairer des points aveugles de l'histoire. Bon, voilà, toute cette question de l'art aussi de recherche, qu'on appelle, je ne sais pas s'il y a un mot en français, mais research-based art ou je sais pas, la knowledge production, enfin, je suis désolé d'employer un peu un jargon comme ça, mais disons tous ces artistes qu'on a beaucoup vus, qui existaient déjà, hein, mais qu'on a beaucoup vus ces dernières années, qui travaillaient comme des historiens pratiquement ou des chercheurs et qui donnaient forme, parfois une forme très minimale. Parfois c'était presque du document ready-made, mais qui en tout cas faisait des investigations, on va dire, quasiment historiques. Et puis de l'autre côté, quelque chose où je suis arrivé aussi plus de manière clandestine ou un peu par hasard, c'était la question de la performance, puisque j'avais fait une conférence qui s'appelait « Une histoire de la performance en 20 minutes », qui était aussi une sorte d'opportunité où j'étais invité à faire une conférence. Et à partir de là, j'avais travaillé sur la performance et le body art, avec, comme tous les commissaires d'exposition qui s'intéressent à ce sujet, cette grande question qui est une aporie finalement, dont il y a eu des milliers de colloques jusqu'à de ces dernières années, sur comment on montre la performance, est-ce que le document c'est la performance, etc. Et c'était une discussion, en fait, j'avoue, moi, qui ne m'avait jamais beaucoup intéressé, bizarrement. Elle m'intéressait dans la pratique, mais après, dans la question ontologique de savoir est-ce qu'une photo est une performance. Il se trouve que moi, j'ai une relation très simple à la performance, c'est que je la connais uniquement par le document. J'ai jamais vu les performances dont je parle dans l'histoire de la performance, comme d'ailleurs la plupart des personnes. Donc cette question-là, pour moi, elle n'était pas essentielle. C'est-à-dire que la performance, c'était déjà du document, pour moi.
Après, se poser la question, dont on a parlé déjà, de savoir si dès le départ, il y a quel type d'intention à le document. Toi, tu t'es dit que dès lors qu'il y a document, il y a eu volonté de document, donc c'est une discussion qui n'a pas lieu d'être. Moi, j'ai quand même l'impression que pour des nécessités, y compris de conservation, dans un geste de conservateur, des choses qui étaient principalement avaient des fonctions très diverses par rapport à la performance elle-même, sont devenues quand même des objets tous mis au rang d'œuvres, quoi.
Oui, mais ce que je crois, et c'est que, évidemment, cette question de documenter la performance, on dit toujours aujourd'hui, les documents sont devenus comme des œuvres, alors ça va à l'encontre de l'idée de la performance. Mais je dis, mais pourquoi ils existent, ces documents ? Elles sont toutes documentées, ces performances. Donc il y avait déjà bien l'idée, à un moment, de garder, de garder une trace. Il y avait l'idée de créer une trace. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui est Jiří Kovanda, qui est un performeur donc tchèque des années 70, qui a travaillé vraiment dans une sorte de clandestinité, pratiquement, puisque c'était des œuvres pratiquement invisibles dans l'espace public. Mais c'est des œuvres qui, on peut dire qu'elles sont faites pour le document, puisqu'il n'y a que des documents de ses œuvres. Il y a toujours une photographie. J'ai travaillé dernièrement avec Karel Miller, qui est aussi un performeur tchèque, encore plus, clandestin, puisqu'il a arrêté de travailler en 79. Il a fait 20 œuvres dans sa vie. Et néanmoins, ces photos, elles sont magnifiques, extrêmement cadrées. Donc je dirais presque, si j'étais un peu, j'allais plus loin, mais tu vas m'arrêter avant, j'irais presque à dire que ces performances n'ont pas été faites pour le document, pratiquement. Et ce n'est pas gênant, en fait. Je pense que quand Chris Burden fait, je ne sais plus comment il s'appelle, la pièce Flight ou Shoot, non pas Shoot, Flight, enfin quand il tire sur l'avion, là, le Boeing, on se demande si la performance n'avait pas été faite pour la photographie, même s'il a certainement appuyé sur la gâchette. Mais la question, elle n'est pas forcément... qu'il est appuyé ou pas sur la gâchette.
En fait. Alors après, ça pose la question aussi de ce qu'on va classifier dans le document, et ça va aussi jouer dans ce qu'on va, quand on va parler après de l'effet retour qu'on a imaginé aujourd'hui. C'est aussi, moi, à défaut de document, moi, peut-être un tout petit peu à la différence de toi, j'ai eu accès à l'essentiel des performances que je connais plus par des récits que par des documents. Ce qui, pour moi, déjà met un premier biais qui va alimenter peut-être... c'est-à-dire qu'en gros, cette notion, cette volonté un peu mythique qu'ont eu, moi je pense, toute une catégorie de performants, notamment américains, que finalement, la performance, elle est connue comme un récit. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un type qui se tire une balle dans le bras, c'est l'histoire d'un... ce qui, au demeurant, me suffit, moi, parce que, comme je disais aussi, ce qui me semble assez important dans ce cas précis-là, c'est l'empreinte, c'est l'empreinte dans la psyché du champ artistique qui m'intéresse, quoi. C'est ce que je disais aussi, c'est qu'une des premières œuvres d'art contemporain que j'ai découverte et qui m'a intéressé à l'époque où je m'intéressais absolument pas à l'art et en général et à l'art contemporain en particulier, mais vraiment plus singulièrement au sport et aux filles. Et donc j'ai découvert Joseph Beuys par une personne qui m'en avait parlé. J'aimais bien ce chemin-là de se dire, comme moi j'étais très novice, c'est quelqu'un qui me parlait de plein de choses qui sont acceptables comme étant de l'art. Donc sur une chose de la peinture, puis on déstructure, puis machin. Puis bon, hésitant à me dire, et puis bon, voilà, elle me montre donc des images de Joseph Beuys comme ça en s'enfermant avec un coyote. Et ça, j'avais trouvé ça super. Quoi, vraiment beaucoup plus, mais pas du tout super dans la catégorie artistique, en fait. Super comme un western, quoi, comme une fiction. Ça m'intéressait dans quelque chose qui avait à voir avec une possibilité de l'imaginaire, mais qui n'avait pas beaucoup besoin d'être réannexé à l'histoire de l'art. En tout cas, à ce moment-là, après, moi, du coup, je l'ai recousu après avec autre chose. Mais je trouvais intéressant aussi le fait que, dans ce cas précis-là, c'est pas tellement des documents et donc pas tant des choses où il y a des négociations, je dirais, de parfois formelles comme des photos ou des textes, que la possibilité d'un récit suspendu qui soit une espèce d'histoire mythique de l'art.
Oui, mais moi, cette question du récit, elle est aussi essentielle pour moi par rapport à la performance, et je pense que le document dont je parle, la captation ou la trace, elle fait partie d'un ordre du récit, puisqu'elle n'est pas vraiment documentaire non plus. Enfin, elle ne donne rien de... les images sont très mauvaises en général, mais ça fait partie du... C'est comme des pièces à conviction. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment des traces éparses qui sont un moyen de reconstituer une partie du récit. Mais il y a toujours des mots. Il n'y a jamais qu'une image. Enfin, c'est jamais, j'en sais rien, il y a peut-être des exceptions, mais quand Chris Burden se fait tirer dans le bras à Santa Ana, il y a pas que la photo, il y a la photo, le récit, il y a quand même dire voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée de la question qui est intéressante, c'est il était une fois un artiste qui s'est fait tirer dans le bras. Parfois je me demande même si j'aurais aimé être là, en fait, je suis pas certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas la question de est-ce que j'aurais aimé être là ou pas. La question, c'est que en fait, personne n'y était, à part peut-être je sais pas combien, 15, 20, 30 personnes, mais que dans l'histoire, ça a opéré sans qu'il y ait d'expérience de ça, pour la plupart des gens, parce que je suis pas le seul. Quand je dis dans la conférence de dimanche dernier que j'ai fait une cinquantaine de conférence sur la performance sans avoir vu une seule d'entre elles, ça fait étonne un peu parfois le public. Puis après, quand on réfléchit, je pense que tous les historiens sont dans le même cas, c'est pas moi. Je pense qu'il y a peu de, même les spécialistes de la performance, ils parlent ou ils pensent à partir de performances dont ils n'ont pas été, qu'ils n'ont pas expérimenté. Et ce qui pourrait ne pas poser un problème, sauf que ce qui pose un problème, c'est qu'on dit que l'origine même de la performance, enfin, son ontologie, c'est qu'il y a un rapport direct de temps et d'espace, et que si on n'est pas dans cette expérience-là, l'œuvre n'existe pas. Or, de fait, ben voilà, elle existe, puisqu'on en parle, puisque... Donc, en tout cas, ça, c'est pour l'idée documenter la performance, qui était, comme je te disais, pour moi, quelque chose qui, assez vite, s'est trouvé... pas un enjeu intéressant, parce que finalement, pour moi, il n'y avait pas de contradiction entre le document et la performance. Ce n'était pas des choses à opposer, ni entre la narration et la performance. Enfin, que tout ça allait ensemble et tout ça faisait ce champ qu'on peut appeler la performance, on va dire. Et qu'il y avait du document, il y avait du récit, il y avait eu un événement, certainement aussi. Et donc, plus que cette question-là, en fait, je me suis aperçu en travaillant ce texte que j'avais mis les artistes qui m'intéressaient aujourd'hui. Donc trois, j'avais choisi comme ça trois artistes parmi beaucoup d'autres qui m'intéressent, mais en tout cas qui étaient pour moi dans une position problématique par rapport à cette question du document et du research-based de la recherche. C'était Walid Raad. Donc un artiste libanais qui travaille sur des faits, en fait, qui travaille comme un historien, c'est-à-dire qu'à un moment il y avait une ambiguïté d'historien, mais qui crée ses propres documents. Walid Raad, donc Dora Garcia, donc une artiste espagnole qui travaille depuis 5 ans sur un vaste projet qui s'appelle Mad Marginals, qui est vraiment une enquête quasiment pas théorique, mais une enquête historique en fait sur à partir des premiers mouvements de l'antipsychiatrie et qui montre ça sous des formes extrêmement différentes, des éditions, des conférences, mais aussi des performances, du théâtre, du musical, du cabaret, de la télévision. Et puis troisième exemple, Eric Baudelaire, un artiste qui vient lui du document puisqu'il a été photographe, mais il a toujours joué sur cette ambiguïté entre des reconstitutions d'événements, enfin sur la différence entre l'événement et sa représentation, et qui dernièrement avait donc fait ce projet sur l'Abkhazie qu'il a montré à Paris dans un béton salon, donc un projet où il a fait un film qui est un documentaire pour le coup, puisque c'est un entretien à partir d'un protocole de lettres envoyées qui ne sait pas si elles vont arriver, puisque c'est un pays qui existe, mais c'est un pays qui a des problèmes de reconnaissance internationale. Enfin bref, il travaille ce projet politique et historique et qui a trouvé la forme d'une espèce de bizarre situation quasiment théâtrale ou performative de quelqu'un qui venait, il a ouvert une fausse ambassade de ce pays où on pouvait venir discuter avec un ambassadeur virtuel, puisque ce pays n'a pas d'ambassade, si ce n'est que cette personne était l'ancien véritable ministre des Affaires étrangères de ce pays. Voilà. Et à partir de ces trois exemples qui m'intéressaient aujourd'hui, j'ai essayé de tirer comme ça des liens, et un des liens qui est arrivé assez vite, c'est que je me dis, tiens, en fait, ces gens-là sont dans une sorte de performativité du document, c'est-à-dire performent le document, au sens où ils avaient à la base un savoir, une sorte de recherche à partager, et que cette recherche prenait des formes de performance. Et deuxième point qui m'intéressait, il y en a beaucoup d'autres, hein, et c'était qu'ils empruntaient aussi une certaine forme de performance, qui n'était plus l'idée de la performance historique, peut-être, ou en tout cas dans l'imaginaire qu'on en a sur des enjeux de questions d'identité, de corps, par rapport à l'histoire de l'art, de l'individu, mais qui empruntait des choses qui étaient presque, on va dire, interdites, ou qui allaient à l'encontre même des référents des premiers performeurs, qui était la question du théâtre, du divertissement, et des formes, on va dire, populaires aussi de représentation.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses en fait dans cette hypothèse. C'est vrai que moi, une hypothèse sur laquelle j'ai un petit peu à choper dans cette question de performer le document, c'est vrai que toi tu poses en fait l'hypothèse du théâtre. Moi, c'est pas du tout pour dans en tout cas la controverse un petit peu historique entre les arts plastiques et le théâtre, de m'inscrire en faux sur le théâtre, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient d'un registre plutôt de l'art du récit, voire du conte, encore une forme un petit peu, comment dire, marginale dans l'art contemporain. D'abord parce que la question du récit a été longtemps quelque chose d'un peu honteux, et puis parce que la figure du conteur renvoie plutôt à quelqu'un avec des cories et des dreadlocks qu'un artiste dans un white cube. Mais je dis ça presque, c'est moitié une blague, mais en tout cas la question de la figure du conteur est problématique parce qu'appartenant à une espèce d'imaginaire populaire dont il y a une volonté de s'écarter dans les pratiques contemporaines. Cependant, j'avais l'impression que beaucoup de choses ne se passaient la plupart du temps pas par la persona du théâtre, donc dans la volonté en fait d'interpréter un texte et de faire exister un personnage, mais par une qualité de présence qui avait plus à voir avec le conte, où celui qui était présent était comme un corps dont la fonction était de transmettre, comme on dirait un lecteur au sens mécanique du terme, vous mettez une cassette dedans et ça lit. Et j'avais trouvé qu'il y avait de nouveau, et là c'était aussi une question qu'on a échangée, il fallait qu'il y ait un corps, Peut-être pas pour les mêmes raisons que la performance ou la question du corps avait été beaucoup travaillée comme, je dirais, territoire matériel, comment dire, des arts plastiques. Le corps comme chose sur laquelle on va travailler pour des questions physiques et matérielles, mais plutôt un corps comme un espace d'outil de lecture. Et que cette notion, en tout cas... Et c'est pas le cas de tous les artistes qui vont travailler, comment dire, se performer le document. Ou c'est pas le cas de tous les artistes qui vont travailler le document. Parce que je vois effectivement dans le cas, par exemple, d'un artiste comme Mathieu Aboninck, dont on a parlé, c'est pas forcément ça qu'il utilise pour transmettre le document. Mais je trouvais que lorsqu'on remettait en jeu un corps, c'est-à-dire qu'en gros, c'était le document qui était mis en lecture, on l'actualisait en quelque sorte. Et ce qui me semblait intéressant, peut-être pour faire une transition aussi, c'était l'idée que cette forme-là de performer le document, elle n'était pas directement autoritaire, au sens qu'en fait, elle mettait en circulation un ensemble de documents auprès d'un public dans un assemblage ou une organisation donnée qui n'était pas forcément l'assemblage et l'organisation, comment dirais-je, unique qui serait possible de faire avec ces documents. C'est-à-dire que là, je m'inscrivais en faux par rapport, en tout cas, à des formes écrites, au sens que là, ces formes performatives, elles autorisent aussi les personnes qui le reçoivent de se dire « Ah ben ça m'intéresse beaucoup ça, et moi, j'imagine bien mettre ça avec ça ». C'est-à-dire que les éléments qui composent l'action, en ce cas-là, restent assez visibles en tant que documents et restent encore une fois interprétables de manière différente. Ce que les artistes avec qui moi je travaille actuellement, qui s'appellent Graham Thompson et Sylvia Maglioni, appellent un travail de transduction. C'est ce qu'ils ont fait à partir du travail de Guettari, notamment sur son scénario inédit Week in Love. Et ils ont fait ce film qui s'appelle In Search of Week, qui n'est pas un... Comment ? Voilà, bah c'est l'idée en fait qu'on pourrait dire traduire, mais au lieu de se retrouver avec un matériau qu'on va réaliser, admettons dans le cas précis un document qu'on va accomplir, je sais pas, on va le mettre en scène par exemple, là on propose une interprétation possible du matériau, mais qui peut tout à fait en fait ouvrir à des possibilités d'en faire d'autres. C'est-à-dire au lieu de dire ceci donnerait ceci, c'est plutôt rendre apparent des processus qui permettraient de faire avec ce même document un ensemble d'autres opérations. Dans le cas de Graham Thompson et Sylvia Maglioni, eux-mêmes, ils avaient fait une publication pour commencer du scénario de Guattari avec des commentaires, puis un film, et après le film, qui est quand même une forme un peu canonique de fin quand même, de processus, un film, après le film, ils ont repris encore le texte pour continuer à le faire travailler dans une possibilité du scénario. Ils ont fait un travail de pièce sonore et une nouvelle exposition va avoir lieu. Et l'idée donc qu'à partir du document, on n'est pas tant dans quelque chose où on achève dans une forme, mais plutôt on ouvre des possibilités de forme. Il me semblait qu'il y avait quand même cet enjeu-là. Moi, c'est le travail, en tout cas, de Dora Garcia, notamment. J'ai l'impression qu'il y a une proposition d'assemblage qui donne quand même envie d'en faire d'autres, quoi.
Oui, mais je crois que la question, précisément, chez Dora... D'abord, c'est vrai que la question du théâtre, je crois pas avoir utilisé dans le texte le mot théâtre, j'ai utilisé théâtralité, alors c'est un peu... Mais non, mais c'est, tu vois, c'est un inconscient peut-être, mais en fait, je voulais pas dire que c'est pas du théâtre, c'est sûr. C'est pas du théâtre au sens classique du théâtre. Mais par contre, il y a une forme de théâtralité, c'est-à-dire que ça n'a pas peur du théâtre non plus, alors qu'il me semble qu'il y avait un peu une phobie du théâtre, je pense. C'était la peur, j'imagine, des premiers performeurs. En tout cas, je crois qu'il y a un... D'ailleurs, je cite dans le texte un texte de Chris Burden là-dessus, et ce que je comprends, et je le comprends parfaitement, on voit bien que la performance historique, le body art, se jouait d'une certaine manière contre une forme de théâtralité, au sens où justement il n'y avait pas de projection de spectateurs, de personnages, c'était ici et maintenant, le sens est du vrai sang, enfin voilà, je ne connais pas de performeurs qui auraient fait un faux pochette de sang pour, justement c'était tout l'inverse. Donc c'est la question de la théâtralité plus, c'est-à-dire qu'il me semble que chez Dora et certains artistes aujourd'hui, c'est surtout que, en fait, il n'y a même pas l'idée qu'on fait de la performance ou on fait du théâtre. Il me semble l'idée qu'on emprunte des formes qui sont théâtre, on parle de performativité plus que de performance, on parle de théâtralité, c'est-à-dire qu'il emprunte des formes qui sont celles du, on va dire, du forme, moi je trouve, du spectacle, on va dire, ou spectaculaire, on va dire, ou, je sais pas, sans avoir peur d'abord de prendre ces formes-là, et notamment chez Dora, c'est aussi la stand-up. Comme toi, d'ailleurs, tu flirtes avec ça aussi dans tes propres projets, avec le cabaret, avec la télévision aussi. Et je rejoins ce que tu venais de dire, il me semble, sur la question du montage. C'est-à-dire que tout ça, c'est aussi plus des formes de montage que des esthétiques particulières. Et quand Dora prend la forme de la télévision, moi, je trouve ça assez intéressant, parce que le modèle de Dora, c'est Andy Kaufman ou ces grands, je veux dire, entertainers américains qui jouaient d'ailleurs sur une ambiguïté, hein, comme dans les Muppet Show, c'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un arrive et lui-même, à qui on donne un rôle à jouer et un texte à dire, mais reste lui-même. Quand Jerry Lewis vient ou je sais pas, au Muppet Show, il est Jerry Lewis, quoi. Mais néanmoins, on le met dans un certain processus. Et ça, je trouve, c'est intéressant parce que la question pour moi, c'est qu'est-ce que ça crée comme type de connaissance et de savoir. Il me semble que ces formes-là permettent, parce qu'on est sur des savoirs où on n'a pas forcément de documents, où ce sont des points aveugles, on doit inventer des formes de restitution, et que ça, c'est des formes assez pratiques de restitution, puisque ça passe de... c'est sous forme de sketch, c'est assez rapide, il y a de la chanson, et puis il y a du débat. Et je trouve ça intéressant, tout comme quand Éric Baudelaire fait cette espèce de jeu de rôle, tu vois, genre bah tu serais l'ambassadeur d'un pays qui n'existe pas. Tout ça, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à la fois des formes populaires, ce qui m'intéresse, parce que ça reprend, je dirais presque des fonctionnalités de ça, ou en tout cas une performance de ça pour le coup. Et puis, ce qui est intéressant évidemment, c'est que ça traite de sujets qui sont difficiles. Qui sont des sujets un peu pas simples, qui sont des sujets complexes, parfois graves. Enfin, Dora, elle parle quand même de l'antipsychiatrie et des mouvements de terroristes, tu vois, jusqu'à Bader Meinhof, tu vois, à la suite de l'antipsychiatrie. Eric parle de l'Abkhazie, ce qui est quand même un sujet très tendu aujourd'hui sur la reconnaissance de l'Abkhazie politique. Toi, dans ta conférence, tu abordes des sujets comme l'anthropologie ou comme je sais pas, les mouvements, les FARC, ou Walid Rad qui parle aujourd'hui, qui parlait des guerres du Liban. Enfin, c'est pas évident d'aller vers la fiction quand on traite de sujets comme ça. C'était aussi quelque chose qui, c'est quelque chose qui, je pense, est quelque chose qui peut faire grincer pour le coup des gens qui sont du côté du documentaire pur. Et c'est le cas aussi. Ça a été le cas d'ailleurs d'Éric Baudelaire, quand il avait fait sa photo avec quelqu'un qui s'appelait Dreadful Details, qui a fait peut-être pas scandale, mais enfin qui a été quand même très controversée quand elle a été montrée dans un festival de photo-reportage. Donc c'est aussi ces questions que je trouve intéressantes. C'est on emprunte des formes pour traiter aussi de sujets et de les traiter bien d'une certaine manière.
Moi, poursuivre ce que tu dis là, je pense qu'il y a une chose qui me semble intéressante. C'est vrai que déjà, moi j'avais été un peu plus loin que toi là-dessus, mais sur la même idée, c'est que j'avais remarqué que cette tendance à travailler, de performer le document, était attachée quand même globalement aux cultures minoritaires, où il y a une problématique d'historicité claire. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas vu beaucoup, mais je me suis pas intéressé à tout, mais pas vu beaucoup de gens qui allaient prendre des grands sujets historiques, très constitués comme sujets historiques. La problématique de qui raconte l'histoire est quand même derrière tout ça. L'antipsychiatrie, ça pose cette question-là. Les États, l'identité nationale dans un État minoritaire aussi. Moi, mon intérêt aussi, effectivement, pour des mouvements. La radicalité aussi pose la notion de à quel moment et avec quel type d'outils on peut être amené on peut réussir à raconter ce qui est quand même du registre des connaissances minoritaires. Ce ne sont pas forcément des choses inconnues, mais ce sont des choses qui pour moi réclament des narrateurs. Et cette question, ça, je dis qu'il faut quand même un corps. À cet endroit du narrateur, qui est donc un corps un peu particulier et qui est aussi un corps un peu littéraire. Après, moi, je pense que l'autre chose qui m'intéressait et que je vois dans ces cas de figure-là, c'est aussi l'idée que dès lors qu'on rentre dans des champs de connaissances constitués de manière minoritaire, parce que c'est aussi des endroits qui sont minoritaires, mais parce que aussi la modalité dont ils se constituent est minoritaire, l'antipsychiatrie ou comme des mouvements qui sont nous posent en fait la question de l'opération pour les mettre en récit, qui en quelque sorte, et on est un peu un certain nombre à courir après ça, réclame des nouvelles modalités. Alors c'est la discussion qu'on a sans cesse avec pas mal d'amis historiens qui se disent mais nous on passe notre temps aussi, tu sais, en tant qu'historien à chercher de nouvelles manières de raconter. Mais en tout cas, j'étais quand même interpellé par cette dimension-là, de se dire nouveau champ de connaissances, nouvelles modalités pour les raconter, mais aussi, et là moi je suis plus proche à titre personnel de ça, le principe du montage, c'est-à-dire pour réussir à saisir ce qui va être fort dans une certaine champ de connaissances, c'est aussi de faire des rapprochements qui ne sont pas faciles à faire si on ne les construit pas avec les outils adéquats. Moi, j'utilise effectivement la question notamment de la fantaisie dans le travail. Et c'est vrai que bon, les choses qui ont attrait à l'humour en art ne sont pas ultra répandues. Moi, je prends en tout cas la question de l'humour comme une question très sérieuse qui permet, parce que c'est aussi en prenant en référence des principes de parenté à la plaisanterie, comme il en existe en Afrique de l'Ouest, donc le fait de dire quelque chose par le sarcasme ou dire quelque chose par finalement un raccourci humoristique, il ne s'agit absolument pas de le dire pour que ce soit drôle. C'est aussi un travail, à la fois un héritage du Bouffon, on va dire, même hein, presque à la rigueur voltairien comme héritage, et à la fois c'est la figure du trickster, celui qui, quelque part, à l'arrivée, s'il a bien fait son travail, se met vraiment tout le monde à dos. Mais donc ce corps qui assume que, à l'arrivée, et y compris si ça peut être un peu drôle, personne n'est d'accord. Et cette espèce d'assumer à titre individuel le dissensus, il me semble qu'il faut qu'un corps, et là je dis un, parce que je crois que c'est quelque chose que moi en tout cas je défends une hypothèse singulière, il faut qu'un corps assume ça pour constituer une possibilité de la communauté. C'est-à-dire que le trickster, son rôle, c'est de mettre tout le monde d'accord contre lui. Et de fait, donc, il constitue une possibilité de parler de choses qu'on n'aurait pas évoquées sinon, comme le bouffon du roi, à une époque plus ancienne, jouait le rôle de lancer des espèces d'hypothèses, mais qu'avait quand même des fonctions politiques. Là, effectivement, moi, je me dis qu'à un moment donné, dans l'assemblage documentaire qui m'intéresse et ce qui me touche dans les artistes dont tu parles, c'est qu'il y a quelque chose, quand même, où les artistes en question sont conscients qu'ils font une opération qui est un peu... qui n'est pas sans risque, quoi.
C'est un peu scabreux, mais... Ça, c'était, je pense que ça, c'était quelque chose qui m'a intéressé, moi, en tant que critique d'art, plutôt, au début, dans l'écriture. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en tant que critique d'art, j'étais un peu étonné par la manière dont j'avais l'impression que l'art, il y avait une façon de sur-dramatiser de la part du critique quelque chose qui n'était pas forcément dramatique à la base, qui n'était pas si grave, qui avait quelque chose qui était de l'ordre de... Je disais une phrase que j'avais écrite au début quand j'étais critique, j'avais dit moi je voudrais parler non sérieusement de choses sérieuses plutôt que de parler sérieusement de choses qui ne l'étaient pas. J'étais moi assez effaré dans la critique comme les gens mettaient des mots complètement traités avec gravité, et notamment la performance, traités avec gravité l'art de la performance avec une vraiment... ce qui fait que moi quand j'ai fait l'histoire de la performance en 20 minutes, bon, rien que le titre lui-même si tu veux était une sorte de... Mais le titre lui-même n'était pas une plaisanterie, c'était juste parce que c'était une opportunité. J'étais invité, on m'avait dit il faut que tu fasses une conférence, il faut que ça dure 20 minutes parce que d'autres gens vont parler, enfin tu sais comment ça se passe. J'ai dit bon bah très bien, je vais faire une histoire de la performance en 20 minutes pour ça, pour cette question-là. Et surtout, je m'étais aperçu que de parler de la performance comme ça, de manière... en la prenant sérieusement, mais de manière non sérieuse, on va dire, en tout cas en pouvant jouer avec. C'est une façon de performer le document, d'une certaine manière aussi. Ça faisait grincer quand même, un peu, parce que finalement, on s'apercevait que... Moi, quand je fais cette conférence, que je l'ai fait pas mal ces dernières années, il y a toujours, pas toujours, mais souvent, quelqu'un dans la salle qui est horripilé, quoi, qui trouve ça insupportable, que je repère assez vite, tu vois, et puis qui va commencer à poser des questions sympathiques au début pour essayer de me piéger un peu, puis au bout d'un moment va me dire qu'il trouve ça dégoûtant. Et c'est intéressant parce que ce qui énerve encore plus ces gens, c'est que moi j'accepte cette contradiction et j'en parle, et donc j'arrive à dire oui, c'est vrai, mais ça dure 20 minutes, enfin c'est pas si grave. Mais non, mais il y a un petit côté aussi de prendre... Quelqu'un une fois avait dit qu'il détestait les gens qui tutoyaient les choses importantes à propos de cette conférence, tu vois. Non, mais c'est intéressant parce que et parce que la performance et le body art a toujours été pris dans un contexte social et politique que je connais, tu vois, que je connaissais pas au début, mais que je connais maintenant. Moi j'ai essayé de la traiter autrement, etc. Mais Mais en tout cas, voilà, c'est cette question dont il me semble tu parlais, c'était la question de comment finalement on change aussi de registre. C'est-à-dire, pour moi, la question de l'humour, en fait, pour être très honnête, je ne suis pas un grand fan de l'art qui joue de l'humour, justement. Tu vois, moi, j'accepte la gravité de la performance. Par contre, j'essaie de ne pas la traiter gravement. Mais en tout cas, j'accepte sa forme de gravité potentielle. Sachant que sa forme de gravité, elle est aussi, en parlant de gravité d'ailleurs, physique, non mais elle est aussi un peu parfois un peu surexagérée par l'histoire. Moi, je sais comment j'ai découvert, comme tout le monde, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, tu vois, les pionniers de la danse post-moderne américaine, tu vois, sur, je ne sais pas... la Judson School, etc., qui était prise très au sérieux. Et moi, j'avais toujours trouvé qu'il y avait un petit côté burlesque dans la manière dont Steve Paxton faisait un truc. Ça. Et de fait, tout, quand même, le discours dessus était un discours universitaire extrêmement... que je comprends. Voilà. Et un jour, j'ai vu une vidéo de Steve Paxton avec le son. Et il y a des rires dans la salle pendant toute la performance. Et un rire, pas un rire, mais un rire, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a un côté burlesque dans la manière dont Steve Paxton, tu vois, ça n'enlève pas tout aussi l'autre question de comment dans l'histoire de l'art et dans l'histoire du geste, il y a un côté pionnier, etc. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Et du coup, je crois qu'il y avait une surdramatisation de ces choses, de la critique. Et là, on est dans ces gens dont on parle, dans l'inverse. Parce que pour le coup, je pense que l'antipsychiatrie, ce n'était pas hyper drôle, ni la guerre entre l'Abkhazie et la Géorgie, mais que là, il y a des formes, pas légères, mais enfin, en tout cas, d'aura, en tout cas, si, on va dire, des formes légères, qui sont de reprendre ça et de le remouliner à une sauce entertainment que moi, je trouve particulièrement intéressante, aussi dans son côté scabreux et son côté tout à fait contestable.
Après, je pense que c'est aussi dans ces questions de mise en relation. Comme tu parles, il y a des hiérarchies qui se posent en termes de régime de connaissances, des champs qui sont constitués, des choses qui sont, comme tu dis, qu'on ne tutoie pas. Et puis, il y a des choses qu'on tutoie, parce qu'on a tous entendu la Compagnie Créole, par exemple, quand on était gamin, ça a été l'enfer de toute une génération. Et moi, par exemple, ça fait partie d'un groupe que j'ai beaucoup utilisé dans mon travail. Mais typiquement pas, je pense, comme il était utilisé... dans l'art, dans une référence second degré. Moi, j'ai un intérêt très, je suis pas très vraiment très capable du second degré, et je fais que des choses qui m'intéressent. Et ça m'intéresse à la Compagnie Créole, parce qu'en fait, c'est un potentiel dramatique très fort aussi, si on veut. Et simplement, il me semblait que en tant que tel, il y avait plein de choses à en dire. Comme d'autres champs, il y a plein de choses à en dire. Mais par contre, quand on commençait à faire des espèces de mises en relation, là, il semblait que tout ceci devenait assez intéressant et pas simplement drôle. Parce que c'est bien d'être drôle, comme tu dis, il y a aussi cette dimension de la présence publique qui fait que quand tu fais un truc un peu roublard, c'est bien parce que les gens, ils sont contents. Mais non, mais c'est un problème d'ailleurs, hein, parce que moi, je sais que j'avais joué cette performance-là au Hall de Skerbeck, là, à Bruxelles, avec beaucoup de monde et beaucoup de gens qui rient. Et là, après, tu ne sais plus comment arrêter, quoi. Tu sais plus comment revenir au truc. Tu dis attendez, on va. Tu vois, là effectivement, il y a un stand-up qui se crée, mais c'est pas toi qui le crée, c'est la situation qui le crée. Mais pour revenir à ça, c'est que moi, ce qui me semblait intéressant, c'est de remettre dans le champ de la connaissance des choses qui ne sont pas considérées comme des connaissances et qui en sont pourtant. Et c'est là en fait l'opération qui me semble intéressante. Il s'agit pas tant de clamer sans cesse, effectivement, l'importance de la culture populaire, des cultures minoritaires, que de la faire, l'opération. C'était arrêter de réclamer, finalement, une meilleure considération de champs minoritaires. Mais c'est un moment de faire l'opération. À un moment donné, tu fais apparaître le fait qu'effectivement, on comprend tout un ensemble de choses en mettant en relation, ne serait-ce que des dates. Moi, je sais que c'était, par exemple, il me semble assez intéressant de se rendre compte que la collection d'art africain de la famille de Roland Barthes passe entre les mains des Fabius et que finalement, voilà, on arrive à un moment donné en 81 où quand Mitterrand remet une Légion d'honneur à la Compagnie créole, ils l'ont, hein, vous le savez peut-être pas, mais ils l'ont. Quoi, ils sont chevaliers, etc. Comme beaucoup d'autres gens intéressants. Il y a une espèce de proximité, parce que son premier ministre est Laurent Fabius, et donc il a hérité d'André Fabius, de la collection d'art africain qui vient de Roland Barthes. Et donc si tu remets ça à plat, avec en plus les dates à laquelle ça se passe, c'est juste comme une espèce de climax du moment, quoi. On peut très bien dire, d'un côté il y avait ça, de l'autre côté il y avait ça. Et puis tu dis, mais en fait, en même temps, il y avait quand même ça, ça, ça et ça qui se passait. Et que juste cette mise à plat-là, sans vouloir rompre les hiérarchies qui existent déjà, mais déjà en simplement les mettant en relation, c'est une opération qui est très simple, mais qui en tout cas répond à une possibilité de production de connaissances qui est d'un autre registre, et qui n'est pas tant en pointer une en particulier que de pointer une méthode. De dire, et si on se dit, tiens, parce que des fois c'est bien de faire des rappels, hein. Moi je trouve qu'il y a des choses qu'on croit savoir, mais le droit d'association pour les étrangers en France, il date de 81, eh bien, si je vous dis ça et vous réfléchissez au XXe siècle avec ça en tête, eh ben ça vous fait réfléchir complètement autrement. Vous dire ah oui, du coup, ça n'autorise pas. Ou si je vous dis qu'en France, aux indépendances, l'État a distribué des possibilités, comment dire, d'activités selon l'origine coloniale des gens, et donc que seuls les Kabyles pouvaient ouvrir des cafés, vous allez vous dire mais c'est vrai qu'en fait en France, il y a que des Kabyles qui ont des cafés. Et donc c'est une connaissance voilà, très très factuelle, mais quand elle passe dans un récit, elle permet de remettre en perspective une situation et ces micro-connaissances qui sont très nombreuses en fait, hein, et qui existent, et donc qui ne sont pas en fait des objets cachés, mais qui sont des objets qui ne sont pas mis en relation.
Non mais c'est pour ça que si la question du corps dont tu parlais au début est importante pour toi, et je le comprends, pour moi la question de performer le document va au-delà de cette question-là, et qu'elle est vraiment sur ce que tu dis, c'est-à-dire pour moi performer le document ça pourrait être juste l'actualiser d'une façon, c'est-à-dire dans un présent. Donc ça passe par la performance parce que on va dire il y a peut-être pas plus présent que la question de la performance, mais en tout cas c'est l'idée de c'est pas le prendre comme ça et le c'est pas prendre le document et le mettre tu vois sans y toucher, c'est vraiment y toucher précisément, et performer c'est toucher, c'est manipuler, c'est reprendre, sinon il est mort, sinon le document est mort. Et moi il y a un livre que j'aime beaucoup qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, c'est le livre de Jalal Toufik qui s'appelle le retrait de la tradition suite au désastre démesuré, où Jalal Toufik raconte, et on voit bien, enfin on s'imagine bien que derrière il y a l'histoire du Liban dont il parle pas directement d'ailleurs je pense, mais sur l'histoire d'absence de traces des guerres du Liban, etc. Il dit voilà, on a eu un désastre, et ce désastre on a l'impression que ce qui reste c'est la culture, c'est-à-dire les films, les documents et qui sont là vivants, mais lui dit ils sont pas vivants, ils sont vivants que si on les refait, si on les réactualise. Il dit réactualiser, ça veut dire réécrire bêtement, même peut-être la même chose, le redire par l'oralité, etc. Et moi je trouve que c'est intéressant parce que pour moi c'est une métaphore, le désastre il n'est pas forcément le désastre de guerre, il est le désastre, c'est juste le temps qui passe, c'est un désastre, et qu'aujourd'hui on est face à des documents qui sont des désastres, il y a eu des désastres, et que je pense qu'il faut les réactualiser, il ne faut pas juste les montrer ou pas juste tu vois, les traiter avec respect ou je ne sais pas quoi, il faut aussi pouvoir d'une certaine manière les performer, que ça passe par la parole ou par le théâtre ou par tout ce qu'on veut d'une certaine manière, mais c'est juste aussi des moyens que ça ne reste pas des documents. Comme je te disais, tu vois, par exemple, on a beaucoup parlé de ces derniers temps des luttes politiques. Donc, y a beaucoup de documents qui ressortent sur des choses dont on a, que tout le monde connaît évidemment, mais qui ont été moins montrés, je sais pas, la question de comment la décolonisation. En ce moment, je travaille sur le cinéma militant après 68, ou voilà, des choses comme ça. Je suis pas le seul, on est beaucoup. Mais la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment on peut, à partir de ces choses-là, elles sont figées, elles figent. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, on dit, voilà, ces choses-là existent, c'est très beau, il faut juste peut-être les préserver. Moi, il me semble que les préserver, c'est aussi les rejouer dans un jeu de relations contemporaines. Et puis, c'est parce que tout ça n'existe que s'il y a un regard critique, en fait. C'est tout ce dont on est en train de parler, c'est la question que performer le document, c'est aussi retrouver une manière critique de le réactiver, parce que tout simplement le temps a passé, quoi, et qu'on va pas, on peut pas retrouver une sorte de fidélité à, au contexte d'origine.
Bah là, c'est une grande question, en tout cas, qui est au moins une question un petit peu tendue que moi j'ai avec mes collègues universitaires. Donc là, effectivement, il y a plein de positions sur cette question-là, mais voilà, selon l'action et la fonction qu'on a, on peut se questionner sur justement, effectivement, est-ce qu'on tente de restituer de manière extrêmement, comment dire, fidèle le contexte d'apparition d'un fait, donc de son document? Est-ce qu'on le réactualise? C'est souvent un peu les deux, parce que quand on va aller chercher, on va essayer de voir. Moi, j'ai toujours l'idée d'un travail. Pourquoi je pense qu'il faut un corps? C'est parce qu'il faut essayer de voir ce que ça nous fait. En fait, il y a des choses qui ne sont pas des choses qui te touchent, et dont moi, en tout cas, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le métier. En plus, j'ai la chance d'avoir un métier où je peux travailler essentiellement sur des choses qui me touchent. J'espère qu'elles sont suffisamment nombreuses pour nourrir un métier. Mais quelque part, il faut voir ce que ça te fait, un petit peu comme l'histoire de Joseph Beuys avec ses chiens, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ce que ça me fait, c'est que j'ai grandi dans une banlieue, on est une famille très nombreuse, on avait beaucoup de chiens, on avait... Moi, le truc de Joseph Beuys, ça m'a renvoyé une forme de familiarité que j'ai joué après en performance, vraiment d'un espèce de cousinage, d'un type qui est dans un espace avec un chien, avec un rapport entre une espèce de négociation qu'il faut avoir entre le danger et la communauté de destin, qui était, moi, un rapport que j'avais avec les nombreux chiens qu'il y avait près de chez moi où j'ai grandi, où tu pouvais vraiment, au coin d'un chemin, te faire mordre par un chien, et ça m'est arrivé plein de fois, ou, tu vois, avoir un... Donc, il y avait ce rapport d'une négociation qui ne séparait pas de manière extrêmement radicale des communautés de destin animal et humaine, qui n'est pas forcément le sens de celui de Beuys, parce qu'il y a une forme d'héroïcisation que moi, je trouvais absolument inintéressant. C'était complètement le contraire. Au contraire, moi, je dis, là, il est au cœur d'une négociation nécessaire. Il faut qu'on arrive à apprendre à partager l'espace et à trouver des langages communs avec d'autres espèces. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Donc, c'est une lecture que j'ai poursuivie et qui tient pour Beuys. C'est pas exactement ça qu'il voulait faire, mais ça tient quand même, quoi. Je pense que l'idée même, lui, d'un truc un peu héroïque, moi, je trouvais ça bidon, parce que j'ai grandi au milieu des chiens, et ce danger-là, je ne trouvais pas extrême non plus. Donc, ça faisait peut-être vibrer des gens dans d'autres contextes, mais moi, je trouvais qu'au contraire, il y avait plutôt un effet de réalité, quoi. Et donc, c'était marrant d'attraper les choses par ce biais-là. Après, voilà, il y a la question de savoir ce que ça nous fait, et donc, si on est capable de lui redonner corps. C'est-à-dire parce que ça nous intéresse suffisamment dans un contexte donné, et on a envie, quelque part, et là, c'est un rapport au fantôme et à la possession, on a envie de tenter de le faire revenir. Donc non pas le faire revenir comme une histoire du passé, donc dans un récit qui est figé dans une date comme une connaissance du passé, mais le faire revenir comme une expérience. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va faire si ça se reproduit? Et ça, voilà, moi, c'était un peu cet endroit-là qui m'intéressait, mais ça peut se reproduire dans le langage et dans le récit aussi, hein. Mais ça m'intéressait quand même de se dire, voilà, comment on fait revenir les choses, quoi. Au sens qu'elles ont d'abord une actualité, une réalité concrète, puis elles deviennent une forme de hantise, des choses qui ont existé. Moi, je pense que c'est aussi le lien qu'ont beaucoup de gens, moi, je connais avec voilà, je dirais, les décennies des années 70 et l'histoire de la gauche radicale en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, qui sont des espèces de totems comme ça de radicalité, qui ont une espèce d'empreinte très puissante, qui sont aussi des moments très dramatiques, dont on ne sait pas tellement comment se positionner, parce qu'à la fois, il y a un effet d'aspiration, de moments de grande radicalité, dont on peut avoir envie aujourd'hui, en tout cas, moi, je peux le comprendre, et à la fois, il y a un effet du contexte qu'il faut comprendre pour pas non plus complètement avoir une approche romantique de ce moment-là, qui, quand même, est un peu plus... et un peu moins net que, comment dire... Il y a un moment net qui n'y paraît, et c'est les discussions que moi j'ai eues beaucoup avec Mathieu Aboninck sur aussi les grands leaders de l'indépendance africaine, dont moi je ne suis absolument pas fasciné, personnellement, mais qui m'intéressent beaucoup. Mais je crois que l'effet de fascination, je trouvais ça un petit peu dangereux, ça nous fait passer à côté de choses qui sont quand même extrêmement, vraiment terribles quand tu connais le détail quand même des histoires, et qu'en plus je pense qu'on peut aussi avoir envie de faire revenir ce que ça représente sans ce rapport d'héroïcisation, quoi. Et là, je trouve que ça touche à la question du quel est le corps qu'on propose aujourd'hui à l'histoire. Et ça touche aussi à des questions, évidemment, de genre, au sens de quel type de corps va recevoir l'histoire et va la redistribuer, en étant peut-être une histoire qui se fige moins sur les figures héroïques, qui sont pour l'essentiel masculines, mais pas que, et qui tentent simplement d'essayer de comprendre ce que ça fait à ce moment comme opération dans ce contexte-là et ce que ça peut faire aujourd'hui comme nouvelle opération. Donc c'est une tentative voilà, d'actualisation, mais avec une intensité. Donc ce n'est pas juste la connaissance qui est mise en distribution, c'est aussi un effet.
Oui, mais ça, je suis assez d'accord avec ça, même si je ne sais pas très bien où ça va. Mais en tout cas, je suis tout à 100% d'accord sur cette idée de l'invocation, qui a un côté fantomatique dans l'idée de performer le document. Je veux dire, l'idée, ce n'est pas juste de le montrer comme... l'idée, c'est d'invoquer les morts quand même. Donc les invoquer, les remettre vivants, enfin les remettre dans une position aujourd'hui, au présent. Et je parle de ça dans le texte. À la fin, je parle de... Je ne sais plus ce que je dis comme mot, mais genre de... Je sais plus. Je parle d'invocation, je parle de rapport. Enfin, les trois artistes dont je parle pour performer le document sont vraiment là-dedans. Dora a vraiment travaillé sur jouer elle-même. Elle a joué Gertrude Stein, mais c'était pas du théâtre. Elle a voulu dire Gertrude Stein est là. Gertrude Stein parle. C'était pas. Voilà. Oui, bon. En plus, c'est intéressant quand on connaît un peu Dora, parce qu'elle a un petit côté Gertrude Stein, je pense, mais même physiquement. Mais c'est pas enregistré là.
Si, si. Ah bon.
En tout cas, il y avait cette question qui était vraiment sur le Dora. Il y a quand même un côté fantomatique, quoi. C'est que je pense pas que ça soit le côté on représente. C'est aussi le côté, comme tu dis aussi, qu'est-ce que ça fait de rendre présent. Et du coup, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de rendre présent que d'évoquer. Enfin, tu vois, invoquer plutôt qu'évoquer, peut-être. Et puis, Walid parle beaucoup de fantômes. Enfin, toute son œuvre est quand même fondée sur cette question des fantômes. Et notamment, plus ça va, plus c'est sur des fantômes. C'est-à-dire que lui, c'est carrément la discussion avec des artistes du présent et du futur, avec qui il a des... C'est quasiment, comment ça s'appelle, télépathie. Mais de réinvoquer aussi des choses présentes et réelles, tu vois. Et puis, Eric, sur ce projet sur l'Abkhazie, Eric Baudelaire, il y a aussi vraiment le côté de dire, eh ben, on va jouer à rendre réelle une situation qui ne l'est pas. Donc on est vraiment aussi sur la question de rendre présent une sorte de rêve et de le remettre. Donc cette question qui est pour le coup fantomatique, parce que l'existence même de l'Abkhazie est quelque chose de presque fantomatique. Donc cette question de l'Abkhazie, et qui passe aussi par la question de la magie, est aussi quelque chose, je crois, qui est très lié à ces formes de performer le document, en tout cas tel que ces artistes-là la donne. Et c'est vrai que peut-être inconsciemment, c'est aussi ce qu'on a envie de faire. Enfin, c'est ce qu'on a envie de faire je sais qu'à un moment, quand on a fait l'histoire de la performance à Vienne avec Frédéric, il y a des gens dans la salle. Alors pourtant, il est loin de, tu vois, il est en costard, etc. Mais à un moment, il faisait une performance très émouvante de Gunther Bruce, qui était une de ses dernières performances, et quelqu'un m'a dit, à un moment, j'ai cru, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a connu, a dit, j'ai cru voir Gunther Bruce, fugacement, j'imagine, mais dans le truc, et que c'était un moment, voilà, donc il y avait aussi peut-être inconsciemment cette idée, moi c'était pas une volonté du tout, hein, justement, pas ça, mais ça joue aussi ça à un moment, c'est-à-dire ça joue de reconvoquer un geste, juste par un geste, tu peux remettre les choses dans un ordre de l'apparition presque fantomatique.
Juste une chose, peut-être je vais vous passer aussi la parole pour ceux qui veulent... proposer des pistes et puis échanger aussi. Je veux juste rajouter un élément qui conclut en tout cas ce premier échange, c'est dire finalement, au fond, et ça on en a parlé très tôt, ça rejoint, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais ça rejoint certaines pratiques curatoriales. Quoi. Moi j'ai l'impression, j'ai une petite pratique de la performance, il se trouve que les choses ont pas mal circulé, mais ce n'était pas tellement l'objectif, dans la mesure où en fait c'est très en rapport avec pour moi un travail de fabriquer des expositions. Et on se disait pour rigoler, mais moi c'est vrai que c'est un truc que je vis souvent, c'est compliqué de raconter les projets qu'on est en train de faire, ou encore raconter les trucs qu'on a vus, parce que en fait sans cesse tu vas au-devant du déceptif, donc tu grossis ce que tu as vu, quoi. Donc moi je raconte plus trop que j'ai vu et que j'ai trouvé super, parce qu'après les gens ils reviennent en disant non mais attends, il n'y a pas la moitié de ce que tu as dit qui est dedans déjà, donc tu es toujours en train de faire justement des espèces de collages fantasmés avec des choses que tu as vu autre part ou que tu as pensé ou je sais pas quoi, mais en tout cas tu refabriques une expérience idéale dans l'enthousiasme. Et et puis après c'est aussi vrai pour ses propres projets quand on commence à faire le récit sur quelque chose qu'on fait. Moi je disais ça en ouverture de saison à Casemin, hein, c'est que c'est le moment que je préfère, c'est avant en fait la saison où tu es comme le skieur en haut de la piste qui fait la trajectoire parfaite et qui est le plus beau skieur du monde, quoi, parce qu'en fait il est en train d'imaginer, vous savez comme ils font quand ils sont en haut des pistes et on les voit en train de répéter la piste comme ça. Et moi bon, depuis que je suis enfant, moi je suis pas tellement skieur, hein, mais je regardais la télévision et j'adorais ce truc là. Je me disais, là, c'est quelque chose, tu vois, tu dois être vraiment trop bien. L'instant d'après, après, c'est la catastrophe parce que c'est le réel. Mais ce moment-là, je voyais ça vraiment comme un truc de qu'on fait enfant aussi lorsqu'on rentre sur le chemin de l'école et qu'on est dans la simulation, on est chanteur. Il y a des petits moments où on est en train de se faire. Moi, je vois encore aujourd'hui mes fils, ils le font. Tu les gardes du coin, ils voient pas que tu les vois et ils sont vraiment en train d'être complètement dans une projection, mais à l'instant, on y est totalement, c'est-à-dire on n'est pas à moitié, quoi, à ce moment où on est complètement en train de le faire dans le rêve, comme ça. Et c'est vrai que finalement, un projet, avant de le faire, il y a un petit moment où il y a un petit instant où c'est comme ça, quoi. Après, du coup, quand tu le réalises... Donc, il ne faut pas trop en parler à ce moment-là, parce que c'est hyper bien. Puis après, c'est vraiment objectivement hyper moins bien. Mais il faut quand même dire la vérité. Cependant, je trouvais que ça correspondait aussi dans cette espèce de principe de récit. En tout cas, moi, je suis plutôt un curateur de récit. De considérer, et ce n'est pas du tout une manière d'en perdre la valeur, mais les œuvres qui sont assemblées comme on considérait des documents d'une histoire. Et donc, il y a à la fois toutes les œuvres dans leur singularité, dans leur partie, de toute façon, singulière, impénétrable. Et puis, il y a une espèce de méta-récit qui serait, encore une fois, une mise en mouvement ou en performance, une actualisation des œuvres, en fait.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est la même chose pour moi. Je raconte des projets d'expo et je vois tellement d'enthousiasme chez les gens que je préfère pas leur dire quand est-ce que l'expo va se faire, parce que je pense qu'ils peuvent être que déçus. Mais c'est normal d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est normal parce que moi je pense que tout projet curatorial, mais là on a changé un peu de sujet, mais est la corruption d'un idéal est théorique et formel, et que c'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est qu'après l'exposition il peut se passer aussi autre chose. Et d'ailleurs ça peut être même l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des expos qui sont pas terribles, qui sont pas très intéressantes à raconter, qui peuvent être des bonnes expos. Donc je pense que voilà l'ordre. En tout cas, juste pour parler de l'ordre du récit, oui, moi je suis dans un ordre du récit. D'ailleurs, plus que dans un ordre du discours, même à l'intérieur des expositions que je fais. Et c'est clair que j'adore aussi raconter des œuvres. Et je suis très bien conscient que ça arrive très souvent que, après, le retour... Et que moi-même, en revoyant l'œuvre, je me dis, ah oui, non, c'était pas du tout ça. Mais c'est pas grave, parce que finalement, peut-être que ce qu'on a vu à un moment ou ce qu'on a pu raconter, ça fait maintenant partie de l'œuvre. Je sais pas, enfin, j'ai juste un exemple précis, c'était quand j'avais fait l'expo sur une expo sur la transparence à la Villa Arson à Nice. J'avais d'un seul coup pensé à une vidéo que j'avais vue, un film que j'avais vu il y a très longtemps de Haroun Farouki qui s'appelle Inextinguible Fire. Et d'un seul coup, j'en avais parlé à mon co-curateur François Piron et je lui avais raconté en lui disant c'est vraiment un truc sur la société capitaliste, comment le capitalisme a créé des formes, on voit des secrétaires dans des trucs, etc. Et donc, on a fait, j'ai pas revu le film, tu vois, on avait fait, ah, il m'avait dit tiens, c'est super, ça peut rentrer dans l'expo sur la critique, voilà, etc. Et puis, à un moment, François le regarde, mais genre un mois avant l'exposition, le regarde et me dit excuse-moi, mais c'est sûr que c'est le bon film parce qu'il n'y a rien de tout ça, c'est un film sur le napalm, la guerre du Vietnam, et donc je regarde le film et je me dis ah oui, c'est vrai qu'il y a juste une scène à un moment qui était le truc qui m'avait marqué, qui dure 10 secondes, où on voit en effet une secrétaire dans un bureau, et moi j'avais raconté tout le film à partir de ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est que du coup François m'avait dit écoute, on peut le laisser, hein, c'est un très bon film, mais bon, c'est un peu ton joker, quoi. Je pense que c'est très très loin de l'expo. On l'a laissé, et il se trouve que
quasiment, il n'y a pas eu beaucoup de presse, mais en tout cas le peu de presse qu'il y a eu sur cette expo, il y avait quand même beaucoup d'artistes, on parlait de cette pièce. Et donc du coup tu te dis bon bah voilà, il y a sûrement quelque chose, tu vois, qui et du coup on a refait l'expo un an après, on l'a remise sans se poser la question, parce que c'était devenu étonnamment une espèce de, pas une pièce pivot, mais en tout cas un élément de l'exposition qui avait du sens, alors que il était à la base sa présence était fondée sur du fantasme.
Ça marche. Oui, je voulais vous poser une question à propos de ces mots sur savoir et connaissance et dans le rapport à la performance. Ça va être un peu mélangé, mais à propos de cet idéal à essayer de réaliser et qui ne se réalise jamais vraiment tel qu'on peut l'avoir. Et je me demande si quand on performe les documents comme ça, s'il n'y a pas un glissement. Enfin, ce type de glissement, mais par rapport au savoir et à la connaissance, qui fait que, pour moi, après, j'aime pas trop ces mots-là. Est-ce que ça peut renfermer comme idée de pouvoir pour les détenteurs du savoir et de la connaissance, et même au-delà de. J'ai l'impression que de toute façon, que ça soit minoritaire ou majoritaire, ça reste une idée de pouvoir. Donc c'est un truc qui me plaît pas trop. Mais et avec une idée de pouvoir, parce que ça serait un truc universel et permanent. Et est-ce que donc la performance, dans l'idée que ça se passe à un moment donné? Donc, juste, et que c'est je sais plus ce que tu as dit tout à l'heure, revécu ou je sais plus exactement le terme, mais donc ça se passe à un moment donné. Il faut, enfin, ça ne peut pas être permanent. On est obligé de le refaire, quoi. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un truc un peu autour de ça, et du coup, qu'est-ce que vous pensez du rapport, puisque vous en parlez pas mal, de savoir et de connaissance avec la performance? Est-ce que c'est compatible en quelque sorte, ou est-ce que ça remet pas, ça change pas le sens de ces mots éventuellement?
Moi, je ne sais pas si ça va répondre directement, mais ça a en tout cas à voir, je pense. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'une des figures, je l'ai dit peut-être par la bande, l'une des figures qui m'intéresse, c'est celle du conteur. Dans la mesure où c'est le conteur, il y a un récit qui peut tout à fait être connu, mais qui fabrique une situation. Donc, ce n'est pas en fait la singularité du récit. Ça n'est pas sa dimension totalement inédite. Pour tous ceux qui ont des enfants, c'est vrai qu'on raconte 10 000 fois la même histoire, mais toujours de manière différente aussi. Et donc la question de la connaissance spécifique détenue à ce moment-là n'est pas aussi importante que la situation, et là ça rejoint peut-être ce que tu dis, la situation spécifique de l'expérience. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la mise en circulation, un travail de performance autour d'un document, c'est avant tout une mise en circulation d'un document. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie, mais il y a des artistes qui sont plus dans cette logique-là. Je ne suis pas quelqu'un de fasciné par la rareté. Quand je parlais du minoritaire, c'est plutôt vraiment des enjeux de pouvoir dans une sphère plus globale, en fait. Mais ce n'est pas tant, en fait, l'idée du rare, par exemple. Moi, ça, c'est un truc qui ne m'intéresse pas beaucoup. Je trouve ça, à la limite, un peu puéril, quoi, comme idée qu'on va trouver le truc que personne ne connaît, on va exposer, on va être celui qui est le premier à montrer. Il y a plein de gens qui sont les premiers à montrer des choses que d'autres gens ont vécues, quoi. Donc c'est complètement con comme idée, quoi. Non, mais tu vois, je veux dire, voilà, tu dis, je pourrais montrer un truc sur l'indépendance en Guinée-Bissau. Ouais, mais il y a tous les Guinéens qui l'ont vécu, ce truc-là. Donc c'est un peu idiot. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de ça. C'est effectivement un mélange, c'est pas tant une figure autoritaire que pour moi une figure puérile, mais qui se rejoignent parfois. Après, pour moi, la question, c'est d'abord le plaisir de mettre en circulation, et dans cette mise en circulation, essayer d'avoir une singularité. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, réussir à faire entendre un truc que même tout le monde sait déjà, mais d'un coup, tu te dis, ah ouais, mais du coup, moi, je ne l'avais pas du tout mis en relation avec ça, ou alors je ne l'avais pas du tout entendu. Je ne l'avais pas du tout. Il y a des choses qu'on sait tous, je dirais, du XXe siècle, qui est un siècle quand même suffisamment costaud pour qu'on en oublie un peu. Et puis, quand ça ressort dans un contexte bien trouvé, d'un coup, ça paraît formidablement éclairant sur ce qu'on vit, tu vois. Et c'est plutôt voilà, le rôle du conteur au sens de... Pour moi, il y a un rôle de répétition que personnellement, je n'assume pas tellement, c'est-à-dire que je ne suis pas tellement capable de le faire comme il faudrait le faire. Mais le conteur aussi, comme personnage, qui va redire des trucs dans le temps... Et donc, effectivement, chaque fois, les dire différemment, parce qu'à la fois, lui, il va créer une situation, à la fois, la situation elle-même va sans cesse bouger jusqu'à ce que ça crée une connaissance nouvelle. Mais pour moi, ce n'est pas tant donc, la connaissance comme objet mis en circulation que la production d'une nouvelle connaissance par la mise en circulation. C'est-à-dire, dans le contexte de l'apparition de ce savoir-là, va se créer, de fait, dans une interrelation, dans une nouvelle connaissance. Donc, il y a une espèce de rapport de coproduction à la connaissance dans la mise en relation, en fait, des personnes, quoi.
Oui, en fait, à ce moment-là, c'est juste la connaissance, c'est simplement la mise en relation. C'est-à-dire que c'est même pas, il n'y a pas forcément une connaissance en soi. Enfin, genre, on peut pas placer de limite avant, après cette connaissance-là, mais c'est le fait de se dire que en mettant en relation, on produit la connaissance qui nous est un peu utile. Parce que je pense, j'ai vu juste une performance que tu as faite, où effectivement j'ai bien rigolé aussi, juste entre parenthèses, mais c'était fait pour, où tu parlais des esclaves avec les balles de coton qui dansaient, qui devaient rester sur place, donc ils se mettaient
sardines,
à...
C'est
quoi, les sardines?
Oui, c'est le port Sainte-Catherine à New York, et c'est les danseurs de sardines.
Ouais, qui ensuite a donné
les anguilles, en fait, les anguilles. Voilà.
Enfin, tu as parlé de plein de trucs, et ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin de la performance, on ne savait pas. Parce que c'est difficile de... Enfin, tu ne pouvais pas la raconter, prendre un élément. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à prendre un élément de la perf en disant « Ouais, il s'est passé ceci ou cela ou cela. » Je serais incapable de le faire. Et en même temps, il y a plein de trucs où ça... À un moment, ça résonne dans ta tête, et ces liens, c'est juste les relations qui résonnent. C'est pas de se dire, est-ce que, tu vois, en plus j'ai échangé là les sardines en balles de coton.
Fabriquer toi-même, on passe ton récit idéal.
Ça change pas l'intérêt que justement c'est une connaissance en glissement permanent. Donc tu peux pas juste dire, je vais prendre ceci ou je vais prendre cela, comme si j'avais ces deux boîtes et j'allais tirer la bonne connaissance qui va m'être utile à tel ou tel moment. En revanche, ça te met dans une situation où, puisque c'est un mouvement permanent, c'est là où je me demande s'il reste de la connaissance, parce que c'est que ce rapport ou que ce mouvement que... Enfin, en tout cas, moi, là, dans ce cadre-là, c'est le truc que j'avais juste retiré.
Dans ce cas précis, juste pour un détail, mais c'est parce qu'à cette époque-là, je pensais ça comme ça. Je ne sais pas si je le referais comme ça à l'avenir, mais j'avais pris la précaution, en fait, que ce travail, il est fait à partir de documents existants, d'avoir dans ce rapport, en fait, de preuve du document, qui est aussi une espèce de jeu comme ça... tous les livres d'où venaient ces histoires à disposition des gens lors de la performance. Alors, c'est un espèce de jeu de dupe, parce qu'en fait, tu peux très bien dire que c'est du bluff aussi, que tout est là, tous les livres sont... que personne n'a vérifié, bien sûr. Le fait est que dans ce cas précis, c'est un montage d'un ensemble de choses où les livres étaient tous là, et qu'après, simplement, ce qui produit quelque chose de particulier, c'est l'effet de montage. Mais c'est une proposition comme une autre. Après, je trouvais ça intéressant d'utiliser la question de la preuve dans cette exposition, dans cette forme-là, parce qu'effectivement, il y a dans le document quand même aussi une logique de preuve, et parce que j'avais beaucoup discuté avec mes amis historiens qui trouvaient quand même fort de café ce que je faisais, et que voilà, je m'étais dit, bon, comment essayer de... Ce que je comprends aussi, par exemple, pour des gens qui font un travail micro-historique très précis, que vraiment articuler les faits dans le temps est aussi une espèce d'art. Parce que oui, j'avais l'impression qu'on disait, d'un côté, il y a l'histoire et c'est bourrin, et vas-y, c'est que des liens logiques, et à côté, après, il y a l'art. Et c'est vrai que ça, c'est pas très sympa, en fait, de dire ça, parce que c'est mal connaître l'histoire. L'histoire aussi fait des opérations qui peuvent être très délicates, ça dépend des historiens, hein, faut pas non plus... moi, j'avais défendu quelque chose qui vient, en fait, des pratiques de ce qu'on appelle narration spéculative, qui est un peu l'école de la philosophie constructiviste belge, Debes, Stengers, tout ça, c'est ce qu'ils appellent un appât. C'est-à-dire, en fait, elle défend Stengers comme scientifique, elle est au départ biologiste, maintenant elle est philosophe, elle dit, personne ne le dit parce que c'est politiquement pas correct, mais les grands chercheurs qui sont connus aujourd'hui comme hier sont des gens qui savent écrire et qui savent raconter. C'est les deux seules choses qu'il faut. Et ça pose quand même, par rapport à la science dure, quelque chose de quand même assez... Il dit, il faut tellement publier que si c'est intéressant la manière dont tu écris les choses, eh ben, tu es plus connu que des gens tout à fait compétents, mais qui sont moins intéressants. Et donc il dit, toute littérature nécessite des appâts. Et donc la notion d'appât, c'est toujours des histoires que... Là, dans ce cas précis, l'appât, c'est des histoires que les gens connaissent, donc il y a une confiance pour amener à des histoires que des gens ne connaissent pas. Et ils se disent, bon, bah... Tu vois, il y a cette espèce d'effet d'appât comme ça. Mais c'est intéressant de se dire qu'aussi dans la narration historique, beaucoup de gens diront, je sais pas, moi je vois quelqu'un comme Carlo Ginzburg, qui va être extrêmement connu en micro-historique du Moyen-Âge, il l'est parce que c'est un super écrivain. Parce que même moi qui suis pas un fan des lectures historiques, j'adore lire ses livres. Parce que je trouve ça vachement bien raconté. Donc c'est un peu idiot comme approche en fait, en réalité. Parce qu'il peut y avoir des gens extrêmement plus compétents qui vont peut-être écrire des choses qui vont moins appâter, quoi. Donc c'est une problématique quand même sur la notion de vérité et de récit qui est quand même assez aiguë, quoi.
Mmh. Ouais, justement, ça remet en... C'est ce truc-là aussi, que c'est... même des questions de compétences et de vérité, y a... on peut se demander à un moment donné, enfin quoi... Il y a d'un côté une quête de Graal de la vérité, de la compétence et tout, et puis de l'autre des moments de vie, ou comme quand tu es avec un conteur, d'un point de vue général, quoi. C'est juste tu passes aussi un bon moment, tout simplement, et c'est que tu vas récupérer, tu sais pas trop comment, par quel fil et tout, ça va te faire avancer d'une manière qui est souvent en biais vis-à-vis de ce que tu as vécu, mais il n'y a pas aussi cette espèce de truc de pression qu'il peut y avoir parfois avec des gens qui se place sur ce palier-là de la vérité. Bon, ouais, je suis un peu trop...
Non, mais juste, évidemment, c'est des questions qui sont fondamentales à ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est cette question de la vérité, cette question de la falsification. Moi, je pense que, après, c'est un point de vue, c'est presque un point de vue de départ, que tout récit est une falsification, que ce soit par un historien ou par quelqu'un, différentes formes de falsification, que tout discours est quand même idéologique, quel qu'il soit, même le nôtre, qu'à un moment, il y a aussi une visée, sinon on ne peut pas parler, sinon je crois que... Et que du coup, il faut accepter ça, et après accepter jusqu'où on va juste dans la falsification, et comment la falsification, paradoxalement, elle est productrice de savoir, d'un vrai savoir. Par la falsification. Et que, par contre, tu as des faits réels qui fabriquent du mensonge. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Et il y avait quelque chose qui m'avait... Il y a une petite anecdote qui m'avait fait réfléchir à cette question il y a quelques années. J'avais lu une interview de Michel Foucault qui préparait, je ne sais plus quel livre, je ne sais plus si c'était... Enfin, un gros livre. C'était un gros livre au sens où c'était soit l'histoire de la folie, soit l'histoire de la sexualité. C'était l'un des deux, quand même grosse enquête. Et donc l'intervieweur à l'époque, c'est dans les 10 écrits là, de Foucault, de toute façon c'est invérifiable. Donc il dit, l'intervieweur lui dit, alors vous avez travaillé, j'imagine beaucoup, donc vous avez travaillé à la BNF, sur quel fond vous êtes posé? Parce que quand même Foucault, il y a quand même l'idée, mais au début, quand je lis ça, ça m'impressionnait beaucoup et j'avais l'impression que c'est d'une érudition. C'est d'abord un travail d'érudition, c'est-à-dire qu'il y avait des faits et à partir de ces faits, voilà. Et lui répondant, ah non, j'ai travaillé en dessous de chez moi à la bibliothèque de la Glacière, dans le 13e à Paris. Et c'est étonnant quand même parce que du coup, on se dit, mais voilà. Et la personne disant, bon, mais pourquoi vous êtes allé là? Est-ce qu'il y a un fonds spécial? Il dit, non, j'ai fait ce qu'il y avait là. Et en fait, il pouvait aller à... Tu vois, c'était pas très loin. Il a travaillé là avec ce qu'il y avait là. Et du coup, j'ai eu un truc qui... Je me suis dit, si ça se trouve, même les documents que Foucault utilisait, ils existent à peine. Non, mais c'est juste, on fait avec ce qui est là. Et pourquoi peut-être il peut faire avec ce qui est là? C'est juste parce qu'il sait un petit peu à l'avance ce qu'il a envie de dire et qu'à un moment, il utilise le document de manière balistique pour atteindre un objectif et que ce sont des pièces à conviction à l'intérieur d'un procès à charge et que d'une certaine manière, je pense que Foucault, sous ses historien, parce que moi c'est très, il donne des, en plus quelqu'un qui donne des documents, c'est des documents quoi. Il va chercher le rapport de police de tel truc, etc. Et on se dit bah non, c'était juste le rapport de police, était là, il a pris, il dit ça, j'en ai besoin pour mon discours. Et je trouve c'est intéressant parce que du coup, ça enlève, et c'est comme créateur de savoir. Parce que pour le coup, s'il y a bien un des philosophes qui a quand même marqué la connaissance et le savoir dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est quand même Foucault qui a eu des vraies conséquences. Et néanmoins, peut-être, dans une certaine manière, non, ça serait exagéré de dire falsificateur, mais en tout cas, peut-être inventer son propre document. Est-ce qu'on est allé vérifier c'est quoi ces rapports de police, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement, d'une certaine manière? Et d'ailleurs, ce que je te racontais tout à l'heure, je trouve que c'est assez beau. Et j'ai vu lundi dernier, il y avait je sais pas, une projection de film à Pompidou sur Vincennes, sur l'université de Vincennes, et on voit Foucault qui est là de s'adresser à des étudiants et dans un chahut, hein, voilà. Et à un moment, Foucault dit une chose que m'a ému tellement, c'est d'une simplicité et que j'avais jamais entendu ça avant. Il dit, il y a des choses qui sont claires, ce sont des faits. Il y a des gens qui ont des problèmes psychiatriques et mentaux et on les enferme. Et moi, j'ai écrit l'histoire de la folie parce que je veux qu'on arrête d'enfermer ces gens. Et il dit la même chose, il dit voilà, parce qu'il y a des criminels dont on a trouvé rien d'autre que la prison et moi, j'ai écrit surveiller et punir parce que je ne trouve pas ça normal qu'on enferme les gens. Et aussi, il dit même je veux que ça s'arrête. Donc il y avait vraiment presque un côté extrêmement fonctionnel, quoi, de dire je vais écrire parce que j'ai besoin de ça pour vraiment avoir un discours. Et c'est la première fois que j'entendais de manière aussi claire cette question qui allait dans le sens d'ailleurs de cette idée aussi de dire que finalement le document, voilà, on en fait, on peut presque l'inventer. Et Walid Rad, quand il invente son document, il crée d'une certaine manière une forme de connaissance et de vérité. Les documents, lui, il n'existe pas, donc il n'a pas besoin de les falsifier, il les invente. Mais en inventant un document, on peut très bien créer de la connaissance et du savoir, il me semble.
Après, juste pour compléter ça très vite, c'est dire, parfois on ne l'invente pas, mais comme tu dis, on va le chercher. Mais là, c'est le propre de la recherche. Moi, j'ai un parcours, donc je viens pas, j'ai pas été formé dans le champ de l'art, hein, j'ai un parcours scientifique, mathématique, et là je suis assez steingersien pour le coup, qui dit elle-même, bon, pour faire des sciences sociales, il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination, mais des maths, si. Je suis assez d'accord avec elle, en fait. Le principe du modèle de recherche dans sciences fondamentales, c'est qu'il faut déjà avoir une espèce d'idée qui souvent vient un peu de rien, qui est un peu bizarre, et aller chercher les preuves à conviction qui infirment ou qui confirment. Tu avances en disant, mais il y a quand même ce tracé-là. Donc moi, c'est vrai que sur des formes qui m'intéressaient, j'avais un certain nombre d'intuitions, comme ça, un peu bizarre. Parfois, une idée un peu comme ça, un peu... J'écoute quelqu'un, je me dis, tiens, c'est drôle. Et, si on... et puis après, tu vas quand même aller chercher des choses qui vont étayer ça, permettre de le faire, comment dire, grossir un peu ou pas, ou tu laisses tomber, ou c'était juste une idée un peu idiote. Mais je trouve que la question, effectivement, peut-être dans le mouvement aussi de la question de la constitution du savoir dans la recherche, il ne faut pas non plus y voir qu'un protocole d'érudition au sens où on va les rats de bibliothèque et puis après tu fais des... Mais c'est aussi des processus, les gens qui vont nous intéresser le plus, et on a souvent dit qu'ils étaient en marge de l'université, ça va être le cas de Deleuze, ça va être Guattari, c'est aussi un peu le cas de Foucault, en tout cas dans une espèce de marge, c'est parce que dans leur protocole de travail, il y a quand même, dès le départ, plutôt un geste qu'une recherche documentaire. Ça devient étayé par ces recherches-là, souvent parce que l'université a un peu besoin de... Moi-même, en fait, hein, j'avoue que sur plein de cas de figure et sur des textes que je dois terminer en des cadres un peu plus officiels, je passe, comme Guillaume, un certain temps à chercher des choses pour quand même avoir un peu de crédibilité pour mes lecteurs universitaires. Sinon, ils vont se dire, putain, mais c'est pas croyable d'écrire un truc pareil. Donc, tu commences par écrire le texte que tu as envie d'écrire, qui est quand même souvent un peu... Tu te dis, putain, ils vont vraiment se dire que c'est n'importe quoi. Et puis après, tu étayes. Et finalement, c'est cette espèce de protocole comme ça de, comment dire, de mauvais garçon, un peu trickster. Je trouve que ça permet aussi, du coup, de faire apparaître une connaissance qui sinon n'apparaîtrait pas. Si tu partais vraiment du corpus et tu y allais sagement, tu ne créerais pas ça comme ça. Tu n'aurais pas d'un coup un truc où il y a un espèce d'effet de montage super bizarre et tu te dis, oui, non, c'est une drôle d'idée. Ça m'était arrivé pour ce texte qui s'appelle « L'émeutier et la sorcière » où je mets en rapport dans cette somme sur la question des sorcières et je parle des émeutes de 2005 comme un moment sorcier. Alors, je me suis fait allumer par tous les universitaires féministes comme d'abord le seul texte masculiniste du livre, ils abusent quand même. Mais effectivement, en ayant fait un effet de montage qui n'emprunte pas l'histoire bien ordonnée des différentes branches des sorciers, les mouvements de gender américains, parce que j'avais l'impression qu'il y avait dans la revue en question, quoi, dans le catalogue en question, ce qui est vrai, des gens bien plus compétents que moi pour parler de ça. Et donc, c'était bordé, qu'il fallait essayer de parler d'un autre truc, c'est tout. C'est quoi, essayer de trouver une perspective un peu différente. Mais j'étais étonné comme à la fois le texte a eu un gros succès public, puisqu'il a été publié en plusieurs langues, et à la fois, je me suis rarement reçu des gens qui me demandaient, quoi. Ils m'ont demandé, en fait, de me justifier avec des points et tout. C'était vachement... Hein, que j'étais un peu embêté. Puis, il y a trois quarts des trucs que je connais pas. Moi, il y a des gens qui sont hyper spécialistes de trucs, dont je suis assez à l'aise de complètement être ignorant. Je dis, non, mais écoutez, je connais pas ce truc-là. Mais qu'il fallait quand même être autorisé à parler. Et ça, je trouvais ça assez marrant, parce que moi, j'ai pris ça comme un truc drôle. parce que j'ai eu une commande et dont je me croyais autorisé à parler, quoi. Donc j'ai répondu, en gros, c'est ça. On m'a commandé un test, je croyais que j'avais le droit, en fait, de...
Moi, pour aller plus loin, en fait, dans le fond, je pense que toute exposition, tout texte, tout travail universitaire est une forme de création et que c'est une forme de fiction. Et que après, il y a différentes formes de fiction. Moi, j'ai été souvent, pas souvent d'ailleurs, mais c'était parfois interpellé par des gens qui, d'ailleurs pas forcément négativement, me disaient « Ah oui, toi, tu es du côté de la création, voilà, toi, tu es un peu artiste. Mais voilà, nous, on est du côté scientifique. Et donc, on ne peut pas se permettre ça. » Mais en fait, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, en fait. Cette séparation-là, elle n'est pas si nette. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, moi, quand je visite le Louvre-Lens et que je vois la Galerie du Temps, par exemple, je trouve que c'est extrêmement idéologique comme manière de penser l'histoire de l'art. Et que pour moi, ce n'est pas plus scientifique, c'est une autre histoire, c'est une autre fiction. Simplement, c'est une fiction qui est héritée. Alors c'est peut-être plus problématique parce que c'est hérité et c'est peut-être moi peut-être ou nous, enfin je sais pas quoi, il y a des gens qui travaillent plus avec leur fiction qui assument de dire que c'est leur fiction, et puis il y a des fictions qui sont héritées. Mais quand j'ai préparé la conférence là sur la psychanalyse là que j'ai fait l'autre jour là chez toi, je suis allé voir une psychanalyse pendant 5 séances. Et à la dernière séance, je disais que elle m'a dit un truc très beau pour défendre la psychanalyse, parce que je disais que mes doutes un peu sur la psychanalyse et tout ça. Elle dit ouais, parce que bon, il y a des fictions, mais moi, ça me dérange pas qu'on soit dans un régime de fiction, et du coup, je vois pas pourquoi il y aurait besoin de résoudre cette question-là. Et elle me disait non, mais elle me disait c'est pas résolu. Elle dit la question, c'est que je trouve ça très beau sa défense. Elle disait non, mais la question c'est votre fiction. C'est qu'elle dit il y a des gens qui fictionnalisent une histoire qu'on leur a de manière inconsciente, une histoire qui leur a été léguée dont ils veulent pas. Et moi, je trouvais ça très beau de transposer ça presque à la critique de ce que fait l'histoire, ou en tout cas l'histoire de l'art, qui est la chose que je connais, on va dire, un peu le mieux. Mais que, en fait, l'histoire de l'art, c'est un peu ça. Tu as l'impression qu'il y a presque un truc où il y a des gens qui continuent à avancer en disant mais c'est scientifique. Tout est... Alors que ce n'est pas du tout ni scientifique, ni normal, ni écrit nulle part. C'est simplement un truc dont ils ont hérité, dont peut-être ils ne veulent pas, qui est peut-être une histoire embarrassante et qu'on continue à raconter. Et moi, je pense que c'est intéressant d'imaginer que il y a des gens qui font ça de manière consciente et d'autres qui le font de manière inconsciente.
Et voilà, plutôt qu'une question, c'est juste dire que ça fait très bien écouter ça, cet enjeu de tous les deux de dire, parce que d'un côté, ah oui. D'un côté, moi j'ai fait de la performance, mais ça fait 6 mois que je n'arrive plus à utiliser ces mots-là. Ça me dérange. C'est-à-dire que je crois que la performance a fait son parcours et il faut trouver un autre nom pour faire autre chose que ça qu'on appelle performance aujourd'hui. C'est-à-dire cette performance qui s'est liée à un performeur qui, la seule chose qui fait problème, c'est le public. Au point qu'il faut le provoquer, avec cette performance, il faut provoquer le public, pour moi, c'est fini. Et donc, avec cette performance que vous nommez comme possibilité, justement, de performer un document, sur la performance, cette connerie qu'il faut provoquer un public et il faut se défaire du public. En effet, on se défait du public et ça pose question. Par contre, performer un document, sur le document de la connerie scientifique, entre guillemets, de l'université, du discours universitaire, parce que ce n'est pas scientifique, c'est le discours universitaire qui fait croire un truc neutre, qui est justement le sort de l'idéologie qu'il faut revendiquer, par contre. Donc, revendiquer l'idéologie d'un côté, revendiquer les corps de cette idéologie qui fait problème, moi, je crois que vous deux donnez une solution qui me fait super plaisir à faire. Écoutez. Ça sauve la performance, ça sauve le document. Voilà, c'est une façon de sauver des choses qui sont mortes, à mon avis.
On ne va pas finir là-dessus, ça fait truc préparé, sinon...
Oui, non, mais...
merci. On se voit après. Hein.
Je ne sais pas si vous avez... Parce qu'on a... C'est vrai qu'on a, un peu dérivé dans plein d'endroits, donc c'est peut-être pas facile de prendre un fil. Pauline ?
Non, mais...
Ouais, tiens, je te... Oui, parce que c'est, en fait, c'est un enregistrement.
Ah oui. Non, mais en fait, moi, je, depuis tout à l'heure, je me pose la question sur... alors, je ne sais pas si on pourrait traduire les research-based artists par artistes documentalistes, mais c'est un peu volontairement provoquant. Et ce que tu disais là dernièrement, Guillaume, sur hériter d'une fiction et ne pas vraiment ne pas parler de sa propre fiction, mais simplement être un lecteur CD, enfin un lecteur de documents, c'est une tendance qu'on voit quand même beaucoup dans l'art. Enfin, je trouve assez rare finalement que les artistes mettent de leur propre fiction dans les œuvres d'art qu'ils transmettent. Ça fait un moment que je me pose la question de pourquoi, quels sont les enjeux de ça, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a une demande, alors de qui, je ne sais pas, du pouvoir, du monde de l'art, de la société. Enfin, c'est très abstrait, mais depuis un moment, je me demande d'où vient cette demande-là d'avoir des artistes documentalistes, quoi. C'est-à-dire qu'ils font la recherche et qu'ils transmettent des documents qu'on aurait oubliés ou qu'on ne lirait pas. Est-ce qu'il y a eu à un moment quelque chose qui faisait cette fonction-là voilà.
Oui, je pense qu'il y a eu un moment, mais on est déjà un petit peu sorti de ça en partie, il me semble. Mais il y a un moment, en tout cas, moi j'ai été
ça a été
pas
très
victime,
bref,
mais
quand même.
Moi c'est un peu mon histoire quand même dans l'histoire de l'art. Moi, je suis arrivé à un moment où une génération d'artistes ont commencé à privilégier beaucoup la recherche, aller chercher des documents un peu oubliés, etc. Et moi, j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que moi j'attendais ça. Quand je suis arrivé dans l'art, tout début, je voyais des artistes qui étaient plutôt de l'ordre se mettre dans une histoire de l'art avec des questions sculpturales, formelles, etc. C'était moins mon truc. Et d'un seul coup, quand j'ai vu les premiers artistes qui travaillaient sur des questions que je connaissais pas bien d'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'avoue que il y avait Anna Colin, que tu connais, je me souviens très bien l'avoir rencontrée il y a quelques années. Elle m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Elle m'avait dit, moi j'attends de l'art aujourd'hui quelque chose qui m'informe, qui me donne du savoir et de la connaissance. Et je me souviens très bien que j'avais dit, moi aussi, c'est vrai que j'étais très heureux de ça, parce qu'il y a quand même, il faut avouer que à la base, il y a quand même l'idée que cadrer quelque chose, c'est aussi une forme, on peut défendre, bon, c'est pas que rhétorique, c'est aussi une forme de création quand même. C'est qu'on allait quand même chercher des choses qui étaient des choses, justement, des points aveugles, etc., et qu'on faisait remonter à la surface. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait à la surface ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça devient à la lumière, quoi ? Et c'est là où ce qu'on essaie de défendre avec Olivier depuis tout à l'heure, c'était les questions, que c'est la question de la relation qui est importante. C'est-à-dire, la question de la relation. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que relation, il y a aussi, étymologiquement, ça vient de relater, il y a aussi raconter. Donc, il y avait ce courant littéraire qui s'appelait des relations, qui était l'idée de tu fais un voyage et puis tu racontes des histoires tout en marchant. Mais bref, il y avait la question de la relation en surface, mais comment tu connectais ? C'était cette question de la connexion qui était la plus importante, à mon avis. Et là, ça commence à être déjà le début d'une fiction, une relation. Mais en tout cas, j'avoue qu'au bout d'un moment aussi, je me suis un peu, pas lassé, mais disons qu'au bout d'un moment, le côté ready-made du document sorti, posé en tant que tel, c'est vrai que... pardon ? Le corps lecteur, oui, qui est un voilà, en tout cas qui ne problématise pas son document ou tout ça, évidemment, est un peu problématique. Et après, c'est toujours pareil. Il y a, donc, comme dans tout, il me semble, grand mouvement artistique, ou pas mouvement, mais enfin, comme toute tendance, on va dire, il y a quand même des gens qui créent des choses, et puis il y a beaucoup de gens qui suivent un peu, on va dire, et qui se retrouvent en disant, quand la fascination pour le document, et ils sont dans un rapport très fétichiste au document, et puis qui montent des choses, et puis voilà, on a vu beaucoup ça ces derniers temps. Et c'est vrai que moi, à un moment, je me suis dit, j'ai pas envie de comprendre trop, parce que il y avait des choses qui apparaissaient, qui étaient juste du document ready-made, qu'on comprenait, et j'avais envie quand même que ça déraille un peu, que ça dévie, et que ça crée une alternative au savoir et à la connaissance. Et bah oui, mais... précisément les artistes dont je parle là, dont je parle depuis tout à l'heure, sur lesquels on se retourne, c'est-à-dire Dora, Eric et Walid Rad, sont dans des formes déviantes, parce que c'est pas clair, parce que ça crée une forme de savoir qui est pas une forme, qui sont des alternatives au savoir, qui utilisent le savoir, évidemment, qui l'utilise, mais qui aussi en crée, et en crée un qui n'est pas le même que celui du début. C'est pas juste des passeurs neutres, quoi. Et après, il me semble que ça, c'est possiblement un avenir, pas un avenir, mais enfin, la chose la plus intéressante, évidemment, c'est comment ça crée et de la pensée et de la forme aussi. Parce que la question de la forme, elle est aussi importante. C'est pas que des. Le problème, c'est que c'est pas que des résolutions formelles, tu vois. C'est pas juste de dire bon, on rencontre pas mal de gens et notamment des jeunes artistes qui peuvent être très embarrassés par la question de la forme, parce qu'ils se disent bon, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et donc, essayer de. Alors qu'évidemment, l'art, c'est aussi un moment où il y a des intentions. Qui viennent en même temps que les intuitions. C'est-à-dire que je pense que la forme, c'est des inventions de forme en même temps que la recherche se fait. C'est comme, on ne sait pas ce qui devance l'autre. C'est comme cette histoire de Foucault, si jamais elle est vraie, d'ailleurs, elle n'est peut-être pas vraie du tout, mais cette histoire de dire quand Foucault écrit Surveiller et punir, ou l'histoire de la folie, il a déjà en tête à la fin ce qu'il va dire. Donc il y a déjà la question de la forme qui est déjà là, et qu'après, il va prendre le document, et qu'évidemment, ça va être dévié peut-être en permanence par ce qu'il trouve. Mais en tout cas, c'est une forme de création. Et après, par contre, c'est aussi une forme de partage de savoir. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Un des exemples intéressants, je trouve, dont on a pas mal parlé avec Olivier, c'est Jean-Yves Joinet, donc qui est un, tu connais, enfin qui était critique d'art d'ailleurs, historien de l'art ou critique d'art, et qui maintenant fait une sorte d'encyclopédie totalement a priori absurde sur une décision d'un sujet qui ne l'intéresse même pas, qui est celui de la guerre. Il fait une encyclopédie de la guerre depuis je ne sais pas combien, 2, 3 ans, 4 ans, tous les mois, il fait une séance. C'est un espèce de projet complètement absurde, presque, je vais dire, un protocole. Et sauf que il y a du partage de savoir, c'est-à-dire que moi je trouve que le contenu il est intéressant, et c'est bien pour ça que ce truc-là dure aussi longtemps, parce que c'est pas juste un protocole, c'est aussi parce qu'il y a de la création de savoir. On n'est pas des artistes.
Enfin, Olivier peut-être plus quand même. Je sais pas. Non, mais c'est-à-dire que c'est un chemin.
Moi, je pense qu'il y a une question du.
Enfin, c'est un chemin qui est d'abord un chemin de chercheur.
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui, pour revenir à cette question de corps lecteur, et puis pour revenir aussi à ce que dit tout à l'heure Guillaume sur un cadre hérité. Quand moi, je suis quand même dans une pratique, pour reprendre l'expression de collectif là, de Latifa, Labissi et quelques autres, dans une logique de figure toxique. Moi, je viens d'un contexte dans lequel je m'adapte à ce que je regarde ce qui semble être la bienséance. Et il y a dans mon travail un contrat non tenu. Les institutions disent, vous ne faites jamais ce que vous avez dit que vous alliez faire, quoi. Mais c'est un truc un peu comme ça. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu comprends l'annonce qui est nécessaire. Donc puis après, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Moi, la question du corps lecteur, je vais vous raconter quelque chose avec des. Le contrat, il n'est pas tenu parce qu'après, effectivement, le travail de sa propre fiction se met au travail en même temps que tu prétends à l'objectivité. Donc, il y a une espèce de rapport, encore une fois, d'appât et de piège. La promesse, c'est finalement le corps lecteur. Et à l'arrivée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, impacté par des fictions personnelles. Tout en étant, moi, je suis quelqu'un qui travaille sur la question du biographique, essentiellement parce que l'Occident est complètement obsédé par la verticalité et par le biographique. Et moi, j'adore utiliser, mon père un jour, ma mère, tu vois, le père et la mère, t'as pas le droit de dire ça en une performance, je dis, et parce que quelque part, il faut que ce soit vrai quand tu parles de tes parents, quand même. Et ça, parce que c'est un truc un peu, je sais pas, il y a un truc qui va pas, on peut pas non plus dire. Et en fait, moi, ça, j'adore ça. L'un des sujets principaux, vraiment, de déviance dans mon travail, c'est quand j'évoque mes proches. Ça, j'adore faire ça. Parce que c'est un espèce de truc complètement interdit. Donc là, on se dit, là, au moins, on est sûr que c'est vrai. Et je dis, donc, un jour, mon père, il était dans un pavillon, il était sous, il rencontre Joseph Beuys. Et là, effectivement, ça ne va plus du tout. Je dis, bon, c'est n'importe quoi. Ça va. Il y a une espèce de contrat, comme ça, de bienséance, qui n'est pas tenu. Et à cet endroit-là, il y a une chose qui me semble intéressante, qui est le refus de l'héritage de ce qu'il faudrait faire. C'est comme dans l'histoire en fait des sorcières où je vais jusqu'au seuil où on m'invite à écrire et j'écris un autre truc quoi. Les gens ils disent ouais non mais ok mais t'es invité dans ce cadre-là. Et ça va avoir. Hein. Moi je trouve que ça va avoir vachement. Et avec le temps ça. Mais quand même il y a quand même la volonté de se dire tu fais tout pour quelque part être à un endroit donné. Mais c'est comme la figure du trickster dont je parlais. Et puis après, tu fais un autre truc. Et je pense que la question de rendre sensibles les choses, c'est justement comprendre comment fonctionnent les héritages, comprendre quelles sont les attentes, quelque part aller jusqu'à... Et puis après tu dis, bon, vous m'avez suivi, mais désolé, là, en fait, on rentre dans une caverne, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, dans la caverne, tu dis, et aussi, je ne vous ai pas dit, mais je ne sais pas exactement où on va, en fait. Et donc, il y a une espèce de succession de contrats avec des pièges comme ça qui me semble important pour essayer de trouver des situations un peu différentes. Parce que quoi qu'on dise, les héritages et les pensées héritées, on est tous impactés par ça, soit tout à fait directement dans un rapport d'éducation, soit par les systèmes de pouvoir de la société qui font que pour faire un métier, tu te retrouves. Moi, je disais récemment, c'était sur un truc sur les jeunes curateurs au Palais de Tokyo. Je disais, moi, mon curateur, ça me va si ça m'autorise à faire le maximum de choses. Si je trouve un autre truc qui me permet de faire plus de choses, je change. Et voilà, c'est ça. L'idée, c'est de se dire à la rigueur, moi, si artiste, ça me permet de pouvoir ouvrir des lieux là où il n'y a pas de lieu pour les gens, je suis artiste, quoi. Autant que tu... Mais si c'est un autre truc qui permet de le faire encore plus et plus loin, alors moi, je suis cet autre truc-là, il n'y a pas de problème. Donc il y a quelque chose qui rompt aussi le contrat d'auto-identification sociale à un endroit, on se tient bien à son endroit. Comme c'est un artiste qui me disait, moi je suis artiste, je fais pipi où on me dit. Et j'aime bien cette expression-là en fait. Je fais pipi où on me dit, tu vois, c'est comme, tu vois, en gros.
Si c'est l'artiste, le contrat c'est au même. Est-ce que j'ai compris ou pas, je ne sais pas, mais c'est le contrat. Si c'est artiste, c'est le contraire, c'est pas artiste même. C'est pas envoyer le social, société. Donc ça, c'est pas la même un registre. Donc c'est d'autres métiers, d'autres choses, je sais pas, mais c'est artiste, c'est le contraire, c'est artiste même.
Vis-à-vis de soi-même, vous voulez dire
artiste même. Contrat et artiste même qui autorise qui autorise quelque chose de contrat.
Ouais, bien sûr.
C'est ça ce que je voulais dire. Moi, quelqu'un qui a dit vous êtes moi je voulais bien faire artiste même qui pense que on peut ouvrir de musée ou quelque chose. Ça c'est artiste qui décide. Donc c'est le contrat. C'est artiste qui décide quoi. Donc, c'est juste dire c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Donc, oui, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a un ensemble de contrats qui se posent.
Oui, avec ça, je comprends très bien.
Avec lesquels, à un moment donné, on a droit d'avoir un intérêt pour ça ou
c'est
pas.
C'est la même chose, c'est ce que pas, vous voulez dire, c'est ça.
Oui, moi, à un moment donné, il y a ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des situations les plus intéressantes possibles. Et s'il faut...
Parce que c'est bien de dévier, sauf qu'à un moment on t'invite pour dévier. Si tu dévies plus, moi j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre les gens que la conférence ça pouvait aussi être juste normal. Et tu vois, il y a un petit côté, allez, viens nous refaire un petit truc rigolo. Non mais tu sais très bien, tu vas être, enfin tu es peut-être déjà, et tu, ou si tu l'es pas, je te préviens, tu vas être aussi pas victime de ça, mais enfin ça va être un truc. Moi c'est ce qui m'est arrivé parce que sur la performance c'était un truc. Complètement pas du tout pensé pour être repris, etc. Donc la première fois que je l'ai fait, j'ai dévié. J'ai invité à faire une conférence 20 minutes, j'ai fait ça. Deuxième fois, j'ai dévié parce qu'on m'a invité à faire une conférence sur la performance vocale que je ne connaissais pas, donc j'ai fait une sorte d'interview. Et je sais que la troisième fois, on m'a invité. Là, par contre, si je dévie, là, j'étais obligé de dévier parce qu'on m'a invité pour dévier. Et là, j'étais piégé parce que je me suis dit, je suis invité, mais là, je ne peux plus dévier parce qu'on m'invite, c'était genre, viens dévier. Donc, c'est aussi le danger du truc, c'est que tu penses avoir un espace de liberté, sauf que si tu ne la prends pas, on va pouvoir te le reprocher, quoi. Donc, non, mais on en sort aussi, hein, on en sort de ça, mais...
Un truc qui était lié à ça, parce que moi j'ai plutôt eu un problème sur la. On avait parlé de ça avec Pauline, sur la répétition. Moi, il y a certaines formes, là, mes best-sellers, moi, je ne peux pas jouer plus de 4-5 fois une forme. Quoi. Et donc là, deuxième vie, j'ai été invité à 10 fois dans 10 endroits différents. Là, il faut faire du spectacle vivant. Moi, je ne suis pas capable. Ou d'un moment donné, si tu sais à quel moment il y a un truc marrant et il te vient, là, moi, je ne peux plus après. Tu vois. Franchement, je trouve ça vraiment... Là, par contre, il y a un contrat que je trouve naze parce que je dis, bon, OK, je vais vous dire ça. Alors, normalement, à 10 endroits, ils ont rigolé, donc le 11e. Et j'ai pensé au type... qui faisait des tournées comme ça, c'est super long, mais tu as des comiques qui, moi, dans mon enfance, m'ont fait rire aux larmes. Je me dis, mais quel talent! Parce qu'en fait, tu fais la même blague tous les jours, pendant des semaines et des mois. Non, mais c'est quand même un truc, tu es dans le même truc, quoi. Et moi, je me rappelais, j'ai pensé à ça, parce que j'étais invité à un plateau à Lausanne, réinvité après un plateau pour discuter de la performance. Et je leur disais, moi, le truc qui m'épate le plus, c'est quand j'étais gamin, c'était la grande mode, c'était Coluche. Et on l'écoutait en bagnole, en partant en vacances, la cassette de Coluche, qu'on se mettait en boucle, que tu arrives à rigoler à chaque fois. Mais après, il faisait des tournées de sketchs qui sont sur la cassette. Donc le truc, de toute façon, il n'y a pas de, y a pas de suspense. On sait où c'est. Et on va quand même. Et là, moi, je me dis, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi, je suis incapable de ça. Je me dis à un moment donné, bon, tu l'as déjà dit, tu ne vas pas redire le même truc. C'est un peu naze, quoi. Et donc, la réification. De forme un peu déviante en forme déviante tout servie, de répéter, ça moi je ne suis pas tout à fait capable en fait, mais ça c'est des capacités que des, voilà, après c'est peut-être d'autres métiers. Pour la performance au départ on défendait un truc complètement unique qui était un peu le truc une fois jamais et tout, moi je pense que ça peut être fait plusieurs fois sans devenir Marina Abramovic hein, et inviter sans rappeur non plus, sans tout ça, mais après au bout d'un moment donné se pose quand même la question de quoi, je sais pas, après, il y a des gens qui ont une pratique. Moi, en tout cas, c'est un truc que j'arrive. La forme devient tout à fait autre chose lorsqu'elle est.
C'est là où tu es dans un truc qui est, pour le coup, assez performatif. Parce qu'il n'y a pas que les comédiens qui répètent. Il y a aussi les enseignants, il y a aussi les profs, il y a aussi les instituts. Il y a aussi, en fait, tu vois, la répétition n'est pas forcément quelque chose qui est lié à quelque chose du théâtral. Où y a, moi, par exemple, les conférences que j'ai faites, j'ai été capable de les refaire pas mal. Après, c'est juste une question d'ennui ou pas. Il y a des moments où c'est un peu laborieux. Hein. Mais par contre, c'était presque en réfléchissant à un argument qui dit que justement, contrairement à de la performance, par exemple, ça, a priori, ça ne se refait pas, ça ne se répète pas, alors qu'une conférence, ça peut se refaire et ça peut se répéter comme un cours, enfin, tu vois, comme un.
Moi, ce qui me posait, peut-être pour rejoindre et moi pour boucler à cet endroit-là quelque chose, c'est aussi peut-être pour dire que moi, dans la pratique de performance, donc j'écris pas et ce que je montre sur, entre guillemets, sur scène et publiquement est exactement la manière dont je le fais. C'est-à-dire que je suis chez moi. Et donc, en fait, pour moi, quand il n'y a plus rien à produire pour moi, c'est-à-dire quand je ne trouve plus d'idées en le faisant, je n'arrive plus à le faire. Parce que tu vois, il y a quelque chose qui va être donné aux autres, mais c'est aussi ta propre mise au travail, le propre effet de montage d'une pensée en mouvement qui va créer des incidents, qui va créer des espèces de relations. Tu dis, ah, ça c'est super, ça c'est bien. Et des fois, si elle passe et tu ne peux pas l'attraper, mais tu dis, ah, je me rappelle, là tout à l'heure, j'étais au bord de partir sur un truc qui est très intéressant. Et donc là, ça reste quand même au seuil de quelque chose qui peut se passer. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, quelque part, au départ, c'est vraiment quelque chose qui est lié à un travail de recherche hein, qui est fait comme ça, à l'oral. Et de fait, une fois que tu n'as plus rien à trouver...
15 fois et que le discours, il est figé à un moment,
voilà. Il est terminé. Moi, en tout cas, j'y trouve pas d'élan et paradoxalement, et ça, c'est le contraire, peut-être, bougez pas. Hein. Moi, plus je les répète, plus ça met le trac, en fait, tu vois. Quand je fais un truc que j'ai inventé la veille, et ça, faut pas le dire, mais ça m'arrive très souvent, que je pense la veille pour jouer le lendemain en public, à peu près, en mettant. Ça, c'est assez facile à faire. Alors, quand j'ai fait un truc que j'ai déjà fait, je revois la vidéo et tout, là, c'est l'enfer, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose quand même qui est une notion de produit. C'est pour ça que la question performative reste quand même là, parce qu'il s'agit quelque chose, se trouve. Et je te disais, moi, ma référence là c'était vraiment les conférences de Lacan. Et pour dire qu'en plus, je ne suis pas spécialement fan de Lacan par ailleurs. Mais il y avait cette série de conférences qui a été publiée par Arte il y a une vingtaine d'années, je crois. Parce qu'à l'époque, c'était encore des cassettes. Là. Et ça, c'est vraiment. Et vraiment, c'est un truc que moi, j'adore, parce qu'il commence son cours avec une idée. Et tu vois, l'idée, elle commence à... Et donc, il y a des fois, c'est un peu laborieux. Des fois, il y a un peu de l'impasse. Des fois, il part sur un truc, il retrouve un peu un coup, et puis ça repart, comme ça. Et c'était marrant, parce que l'une d'entre elles, c'est encore les événements universitaires. Et puis, un type débarque dans l'amphi, comme ça. Il dit, ouais, c'est la manif, dehors, c'est la grève. Donc, il interrompt Lacan, il arrive, il renverse son verre, il lui met du papier, il lui met plein... Donc, il l'embrouille complètement. Et donc, Lacan, il part. Vous savez, il est un peu perturbé au début. Il dit, bon... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez décidé qu'on allait tous collectivement avoir le même désir que vous. Alors, donc, c'est énorme parce que pour le coup, là, l'autre, il l'agresse presque physiquement. Hein, il lui jette un verre d'eau dessus. Mais, et donc, c'est quand même un truc un peu comme ça, agresse. Et franchement, bon, je pense au jeune type là, qui fait ça. Il y a deux phrases et vraiment juste, tu disparais de la circulation. Et il a sûrement raison parce qu'il y a une manif dehors et tout. Mais il dit un truc qui est juste. Mais il balaye le truc en disant sur le fil, il était sur la question du désir. Il me dit, ah ben voilà. On y est. Donc là, on est dans votre désir, tous collectivement. Et donc, c'est bien, parce que tu vois... Et donc, il enchaîne et il continue une demi-heure encore après, uniquement sur l'événement qui s'est déroulé. Et ça, je trouve ça impeccable. Ça, je trouve que c'est... Waouh, tu te dis, ça, c'est super beau. Et c'est le chemin d'une pensée avec des moments donnés où tu sens que ça... Tu sens, tu vois, c'est Glenn Gould un peu qui sort là, qui revient et qui... Et ça, je trouve... Et c'est pas tant de l'improvisation, parce qu'il ne travaille qu'avec un matériau qu'il a en tête, qu'un exercice d'assemblage de pensée que moi qui trouve pour moi une référence vraiment dans le genre. Quoi.
C'est tout pour aujourd'hui.
On va peut-être libérer, parce qu'il y a envie de fumer, de boire, de discuter. On arrête là pour aujourd'hui, alors. Merci à vous. Merci.